Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech, diffusé en direct mercredi 23 mai 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 24 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Amis de la Résistance, bonsoir.
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 Alors, vous avez remarqué que ou Victoria a attrapé un sale rhume, ou elle n'est pas là. Eh bien, elle n'est pas là parce qu'elle a attrapé un sale rhume, voilà. On lui souhaite un prompt rétablissement, et elle va nous manquer parce qu'il n'y a que des mecs autour de cette table. Ça va être d'une tristesse, mes pauvres enfants.
La caserne.
Comme dit François. Alors, naturellement, les plaisanteries de garçons de bain et de caserne et d'adultes en chef sont interdites.
Il faut faire attention, par exemple, à bien prononcer François Fillon, à respecter la diérèse.
François Fillon. Ce n'est pas de notre genre de sortir des plaisanteries de garçons de bain.
Non,
il
n'y
a pas de souci.
Alors, autour de cette table, Goffman, tiens, on va faire l'inverse des aiguilles d'une montre.
Zan.
Donc, Goffman.
Zan.
Au plus. Le marquis Chéri Gasdolmetta, écrivain, homme de lettres et fin diseur.
D'accord. Présent couché. Voilà.
Alors, j'ai entendu Gérard Marin qui disait du bien de votre opuscule.
Ah, écoutez.
Dans son émission, qui est publiée aux éditions Via Romana.
Voilà.
Alors, je signale que les livres des éditions Via Romana se trouvent dans toutes les bonnes librairies, mais tout spécialement dans la librairie du Petit Pont. Ouais. 6 rue du Petit Pont, qui s'appelle maintenant France Livre.
C'est ça, oui.
On peut donner l'adresse de vente par correspondance pour nos auditeurs de Tokyo et de Los Angeles, quand même. Donc, il s'agit du livre de notre ami Chéri Gasdolmetta, qui s'appelle L'Homme à Table, aux éditions Via Romana. Donc, c'est 10 euros à la librairie du Petit Pont. Et donc, pour ceux de Tokyo et de Canberra, c'est 12 euros. Alors, il faut balancer l'adresse de l'auteur, là. J'y vais.
Me l'a donné. Ah,
vas-y.
À l'ordre de Jean-Paul Chéri Gasdolmetta, voilà. 93 rue du Ruisseau, 75 018.
Je savais qu'il était sorti du Ruisseau.
Paris.
J'ai beaucoup de mal à rester sur le trottoir, même.
Il faut quand même que je vous raconte ce qui se passe. J'ai demandé à Mylène, qui est une de nos très gentilles standardistes, de me faire un petit thé, parce que d'habitude elle me fait un petit thé. Et là, elle m'apporte deux boîtes.
Des tisanes.
Il y en a une, c'est la tisane des marmottes. Quelle horreur, la tisane des marmottes. Et l'autre, c'est du thé à la pêche. Non, du thé chai.
Et ce qui est fantastique, c'est que je suis sûr que la moitié des auditeurs ne croient pas qu'on puisse boire du thé.
Si, si, au moins.
Non, mais maintenant, c'est, j'atteste que vous buvez que ça, mais ils ont du mal à
boire. Arrête de boire de l'eau, même.
Oui.
Ensuite, Jean-Pierre Poteau.
Quoi?
Non, il n'y a rien à faire. Non, une fois pour...
c'est le prénom, mais...
Alors, je me suis déjà pas trompé.
Permettez-moi de vous présenter
Rondeau.
Serge,
Rondeau.
Notre ami
comme
Rondeau.
Le général.
EAU. Non, c'est ce que j'allais dire. EAU et pas OT.
Rondeau, notre expert financier indépendant.
Qui est content.
Le cabinet SDB.
SDB, c'est bon.
Salle de bain.
Il est content parce que son client a été élu. Vous avez voté Sarkozy, vous, je suppose.
Je ne crois pas.
Non, je ne crois pas voter Sarkozy.
De cette table.
Et François Robot, la nouvelle star de cette émission.
Encore une.
Alors, je ne lui demande pas comment il a voté parce qu'on a un deal au départ. il garde le secret de son, de sa détermination citoyenne.
C'est ce qu'a dit Azouz Begag sur RTL ce matin, ouais, quand Apathy l'a interviewé. Il a dit, dans le secret de l'isoloir, voilà, je ne vous donnerai pas.
Enfin, il a fait un grand tour, lui. Il a fait un grand tour, en plus, au niveau de l'élection, puisque un coup Ségolène, un coup
Béraud. Ben, c'est normal qu'il vote Béraud.
Donc il sait plus ce qu'il a voté dans, dans l'isoloir. Très,
très, non, mais à la limite, je trouve qu'effectivement, il a raison de faire, moi je n'ai aucune sympathie pour lui, mais il a raison de faire ce rappel. Dans une démocratie, on n'a pas à savoir ce que les gens ont voté. Je trouve inadmissible que les Hallyday et les autres viennent dire je vais voter.
On n'est pas en démocratie.
On n'est pas en démocratie. Bon, d'accord, mais enfin, je suis pas d'accord. Voilà. Bon,
bon, alors et vous, qu'est-ce que vous avez voté donc?
Vous voulez que je vous le dise?
Oui.
Ouais. Ben, j'ai voté comme avait demandé le président Le Pen.
Ah ben voilà.
Voilà.
Ah ben voilà,
comme Cécilia.
C'est comme ça que vous respectez la démocratie?
Oui. Ben, je suis allé voter.
Eh bien, on va tout changer dans cette émission, parce que comme c'est, Victoria n'est pas là...
Profitons-en.
Oui.
Quand le chien n'est pas là...
C'est pas profitons-en, c'est que si je ne dis pas les annonces tout de suite, je ne les dirai jamais. Alors, voilà. Alors, je ne les ai pas lues avant, donc... Le Centre Saint-Paul, pour le mardi 29 mai à 20h, organise une conférence avec Antoine Assaf. De la laïcité au communautarisme, un regard libanais sur la crise française. Centre Saint-Paul, 12 rue Saint-Joseph, 75 002, Paris.
À mon tour, fête du Cercle National des Combattants, dimanche 3 juin, au domaine de Grand Maison à Villepreux 78, messe, discours de Roger Hollindre et de Jean-Marie Le Pen.
C'est la messe de Jean-Marie Hollindre.
Non, rassurez-vous.
N'importe quoi, fête de juin.
Non, l'aumônier, le CNC a un très bel aumônier.
Alors, une annonce personnelle. Mon excellent camarade Grégoire Boucher. Un garçon très bien, et d'autant que c'est un fidèle auditeur de Radio Courtoisie et un fidèle abonné du Libre Journal, a perdu un missel édité par le Barou. Couverture noire, mais dans un étui en cuir marron. Donc facile à reconnaître. Si vous dites c'est pas moi le missel de Grégoire Boucher, vous pouvez dire menteur. Je t'ai reconnu avec ta robe marron. Très nombreuses images à l'intérieur, ce qui arrive dans beaucoup de missels. Et alors, vous m'avez raconté une très belle histoire, Marquis.
L'histoire du...
Racontez-la dans le micro, si vous voulez. Donc,
je ne sais plus comment ça s'appelle, les trucs qu'on colle, les post-it.
Les post-it.
Oui, je fais la version très vite. Un des cadres très importants de la maison Scotch aux États-Unis, qui fabrique le fameux Scotch, allait à la messe tous les dimanches, et il avait un missel rempli d'images pieuses, et évidemment, tous les dimanches, toutes les images pieuses dégringolaient les unes après les autres pendant la messe. Il en a eu marre, il s'est dit, il faut que je trouve un système pour que ces images ne tombent pas. Et puis, il faudrait que je trouve une colle, que je puisse poser, puis que ça s'en aille, que ça revienne. Et il s'est souvenu qu'il y avait des vieux stocks de colle, donc elles devaient être un peu éventées. C'est comme ça qu'il a mis un point de colle sur chacune de ces images pieuses, qu'il pouvait enlever, regarder, remettre. Mais quand il ouvrait son livre de messe, elle ne tombait plus. Et c'est comme ça qu'est né le post-it. Après, il a dit, bon, on va mettre ça pour les bureaux, etc. Et ils ont trouvé une colle, alors bon, qui est celle aujourd'hui, qu'on a sur les post-it. Mais au départ, c'est ça.
Et ça, c'était la version courte, hein, qu'il nous a dit au début. Alors je voudrais savoir ce que t'aimerais la version courte.
C'était trop long encore.
C'est la version. Il y a une version de Georges de Brassens. Ou une petite marguerite tombe du livre de messe.
Il n'y avait pas de colle.
Du curé. Ouais.
Alors donc, Grégoire a perdu son missel. Il va partout à la messe, forcément. Voilà,
forcément.
Alors, soit à Versailles, soit à Marly, impasse des gendarmes, soit à Marly, église libérée, soit à Nanterre. Voilà, savoir ce qu'il va faire à Nanterre à la messe. Ah, dites donc. Enfin, bon, bref, il fait comme il veut, mais.
Espérons qu'on le retrouvera dans une église.
C'est la faute à Voltaire.
Rentrer dans un restaurant.
Prévenir la radio qui transmettra. Voilà. Vous téléphonez à Radio Courtoisie et vous dites, j'ai retrouvé le missel à Grégoire.
À mon tour. Bordeaux, pour nos amis de Bordeaux et de la région, de la Gironde et même de tout le sud-ouest, pourquoi pas, puisque quand on va d'ailleurs à côté de Deauville, on a des gens qui viennent de Vire, de Grandville, donc avis à tous nos auditeurs qui nous écoutent certainement sur radiocourtoisie.net dans le sud-ouest, le 3 juin, Anne Brassier rassemble de nombreux écrivains et journalistes à Mérignac au château Pic Caillou. Il y a une photo dans le Libre Journal, il est ravissant ce château, typiquement bordelais. Messe à 11h, pique-nique tiré du sac. Et voilà, j'aurai l'honneur de représenter le Libre Journal, quoique je vienne d'apprendre avec rage que finalement Anne ne voulait pas me trimballer dans sa voiture. Alors je suis furieux, mais je donne quand même un numéro de téléphone, 05 56 97 84 67 ou 06 09 25 68 75. Ça se passe à Mérignac, près de Bordeaux, le 3 juin.
Quel est le motif du non-covoiturage? Qu'est-ce que t'as fait encore?
Je crois que son mari n'est pas d'accord.
Mais non, elle va par le train. Alors, elle va pas emporter sa voiture. Elle va
pour
te trimballer. Pour vous faire plaisir.
Tu demandes pas à monsieur de Beckett s'il y sera?
Le nationalisme est-il un péché? C'est le sujet de la 16e université d'été parce que ça fait 3 jours qu'il me tanne, parce que je veux pas lui dire si j'irai à Bordeaux ou pas.
Ou à Villepreux, le 3 juin.
À Villepreux. Renaissance catholique organise sa 16e université d'été. Le nationalisme est-il un péché? Du samedi 14 au mardi 17 juillet 2007, avec Claude Rousseau, universalisme chrétien et identité nationale. Qu'est-ce qu'une nation? Je vous conseille Claude Rousseau, c'est quand même pas n'importe qui. Hein. Michel de Gugère, qui n'est pas n'importe qui non plus. Le conflit du christianisme primitif et du patriotisme romain, beau sujet. La naissance du sentiment national en France par Philippe Conrad, qui est un historien que vous connaissez bien puisqu'il participe aux émissions régulièrement avec Dominique Vénère. Philippe Maxence, gallican et ultramontain. Jacques Trémollet de Villers, patriotisme d'ancien régime et nationalisme révolutionnaire. Christophe Réveillard, tous les nationalismes se valent-ils? Jean Madiran, Maurras et le nationalisme intégral. Condamnation puis réhabilitation de l'action française par Philippe Prévost. L'abbé Bruno Schaeffer, enseignement pontifical et nationalisme. Émeric Choprade, le projet mondialiste. Bruno Gollnisch, l'Union européenne contre les nations. Et Jean-Pierre Beaugendre, politique chrétienne et immigration.
Et Serge de Beckett, il sent le pâté?
Non, je fais une conférence intitulée « Heureux comme Dieu en France ».
Wow. Donc le nationalisme n'est pas un péché, je peux continuer?
Peut-on être catholique et fasciste?
Oui. Je vous le demande.
Je n'allais pas là.
Et vous répondrez quel jour à Villepreux? Pour ceux qui,
ça ne regarde personne, que moi-même.
Incroyable.
Quand j'aurai la permission de ma petite femme.
Ça se décide dans le secret de l'isoloir.
Ah oui, alors c'est du 14 au 17 juillet à Villepreux. Ouais. Voilà. Et comment on s'inscrit? Sur renaissancecatholique.org. Et c'est tout. Bon, alors, ce qu'on peut le mettre.
Non, mais on peut téléphoner à la Renaissance catholique.
On peut téléphoner au 01 46 62 97 04.
Voilà. Mon excellent camarade Régis de la Croix Vaubois. Là, c'est un beau nom, hein.
Deux.
Oh, pardon. C'est la jalousie qui transpire.
Ouais, ça, franchement, non. Je ne vous fais pas mon compliment, Goffman. Hein.
C'est Von Goffman, bah tu peux
me
courir.
Me prie de faire savoir que le Front National a mis en place une cellule de démarchage téléphonique pour mobiliser l'électorat en vue des élections législatives du 10 et 17 juin prochain. Cette cellule est basée au siège du Front à Saint-Cloud. Tiens, voilà où on nous mettra quand il aura le pouvoir.
Mais je croyais qu'on allait dans les mines de sel sous la haute direction du Marquis.
Je lis les messages maintenant, on aura peut-être la chance d'avoir une cellule.
Ah oui.
Vous allez améliorer votre sort. Là.
Pour faire face à une forte demande des candidats du Front, il est procédé à un recrutement complémentaire de téléacteurs.
Waouh.
Qui ne sont pas des acteurs de télé. Hein.
C'est moderne.
Notamment pour couvrir.
Hein? Pardon?
Ah non. Couvrir les heures de fin de journée et de début de soirée, de 17 à 21h, et les jours fériés et week-ends. C'est ça, les autres, ils se sont pris tous les trucs tranquillement. Toute personne qui serait intéressée à cette forme originale de propagande peut s'adresser à Thérèse Brochard au 01 41 12 10 05 pour prévoir un entretien avec Régis de la Croix-Vaubois, organisateur de cette opération. Plusieurs postes rémunérés sont à pourvoir. Ah, on voit tout de suite le marquis qui se réveille. Hein. Pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 9 juin prochain. Cette forme de militantisme pépette permet d'allier l'utile à l'agréable, bah oui, pareil, hein, la promotion de nos idées tout en percevant une rémunération, le rêve.
Alors par exemple, on téléphonera à madame...
Qu'est-ce que je fais moi d'autre? Je peux pas me moquer de ces gens-là. Quand je vends un journal qui défend mes idées, je le vends.
Donc on téléphonera par exemple à la marquise de Grantaire dans le 16e pour qu'elle vote Farid Smaï. J'ai bien compris.
Oui, mais non, il faut pas dire que c'est un acte militant si on est payé.
Ben comment, c'est un acte militant, bien sûr.
Oui, enfin, moi je veux bien.
Mais... Bon, ben, pas faire un numéro de morale politique.
Non, de morale tout court non plus, d'ailleurs.
Alors, à propos du pèlerinage de Pentecôte, je signale, mais pour l'instant je n'en sais pas plus, que la messe du dimanche aura lieu.
Pardon.
Ah, il faut se le faire.
Il est patient.
Aura lieu aux Essarts. Parce que d'habitude, c'est pas aux Essarts. Mais là, ça sera aux Essarts. Voilà. Mais là, le lieu sera précisé plus avant dans l'émission parce que j'attends un appel téléphonique.
Un contact.
Le lundi à 13h, Anne Brassier convoque ses très nombreux admirateurs. Pourquoi vous ricanez, c'est vrai? Non, Anne Brassier, elle va attendre l'arrivée avec quelques amis et compagnons, l'arrivée du pèlerinage Porte Dauphine, le moment où il se transforme en procession. Pardon. Pour aller au Sacré-Cœur. Donc, si vous voulez vous joindre à cette cohorte élégante, 13h, Porte Dauphine, métro, Porte Dauphine.
Carrière messe de rigueur.
Lundi. Voilà. Non, on n'est pas obligé. C'est mieux, mais on n'est pas obligé.
Les commentaires.
Voilà. Bon, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. J'en ai certainement. Ah,
voilà le thé qui arrive. Je le dis pour les auditeurs qui n'auraient pas la radio en couleur.
Alors. Je dois dire que moi, je suis extrêmement content. Merci, Mylène. Vous êtes un ange descendu du ciel.
On ne cache rien. C'est du direct, comme ils disent.
Si, on cache. Le thé n'est que pour le patron. Hein.
Oui, ça, c'est un détail un peu sordide.
Regarde, hein. Quand vous souhaitez, bien sûr. Mais pour l'instant, on fait un thé. Alors, ce que je veux dire, oui.
Il n'y a qu'un seul qui s'empoisonne.
Je suis très, très, très content du résultat de la présidentielle. Parce que... Ça va mettre un peu d'ambiance.
Hein? Il y a d'ailleurs deux questions déjà, hein, oui, des auditeurs. Ben... D'abord,
Jean-Pierre Rondeau remplace Victoria.
Voilà. On y je vais essayer de...
D'où la perruque et les couettes.
Je suis étonné que ça...
Non.
Donc,
une information pour Serge, c'est je suis étonné que Serge de Bekel ne connaisse pas la messe de Notre-Dame de Fontenay à Nanterre, qui est une messe traditionnelle.
Mais je blaguais, je la connais. Voilà. Non, parce que Nanterre, c'était de mon enfance. C'est là que j'étais quand j'étais petit garçon. J'étais pas à Nanterre, j'étais à la folie. Nanterre, la folie.
Alors par contre...
Je connais très bien, d'autant que cette messe, elle a été obtenue de haute lutte.
Et oui.
Alors sinon, au niveau politique, donc, pouvez-vous expliquer, et ça introduit certainement ce que vous vouliez dire, pouvez-vous expliquer pourquoi le FN s'est effondré? Pensez-vous que cela soit le résultat du discours sur la dalle d'Argenteuil? Quand parlerez-vous franchement de maintes raisons, je pense, ou des vraies raisons, pardon, des vraies raisons de la défaite de Jean-Marie Le Pen à la présidentielle?
Jamais.
Non, alors, si vous voulez, j'ai déjà dit ce que j'en pensais, je peux recommencer. Voilà. Hein. Et je crois que c'est pas un grand mystère. Parce que...
Et on nous demande où en est le cas de Michel Lajoie.
Alors, Michel Lajoie, ben, il devrait être mis en liberté conditionnelle assez rapidement. Les conditions de cette mise en liberté étant d'ailleurs draconiennes, mais bon, je ne veux pas faire de commentaires parce que l'essentiel c'est qu'il sorte. Oui. Voilà un garçon qui a fait 20 ans de tôle.
On en parlera après. Oui.
Pour rien, parce qu'il a acheté un pétard dans un bistrot. Et je le rappelle, non seulement il n'y a pas eu de blessé, mais les dégâts ont été tellement minimes que l'assurance n'a pas pu les rembourser, parce qu'il n'y avait rien à rembourser. À cause de ça, parce qu'il a revendiqué le caractère raciste de son geste, il a été condamné à perpétuité. Et ça fait 20 ans qu'il est en prison. Il va devenir le plus vieux prisonnier de France. Alors quand on pense qu'on a libéré des assassins d'enfants, des égorgeurs, des violeurs et tout, et qu'on garde ce garçon en prison, c'est totalement révoltant. Bon, là, il semble que enfin les organisations de vengeurs masqués aient levé l'interdit qui était porté contre lui, et qu'il va pouvoir être mis en liberté conditionnelle. Mais cette liberté conditionnelle, elle est elle-même assez difficile, enfin assez lourde de danger, parce que elle lui interdit tout contact avec, ouvrez les guillemets, l'extrême droite, fermez les guillemets, l'extrême droite,
ça
commence à la gauche de Sarkozy maintenant, ah bon, tout contact avec la presse, tout contact avec c'est évidemment tout est fait pour pouvoir le coxer le lendemain de sa mise en liberté, parce qu'il aura toussé à moins de 200 mètres d'un kiosque à journaux qui vend présent, ouais, c'est ça, exactement. Donc, on en parlera assez peu. Je vous ferai savoir quand il est libéré et ce qu'on peut faire pour lui. Il a un appartement, il a un boulot, et par conséquent, ses amis se sont mobilisés pour l'aider. Ce qu'il faudra certainement faire à un moment quelconque, c'est participer à une une collecte de fonds pour lui permettre de...
Lui remettre le pied à l'étrier.
Oui, et puis surtout lui permettre le minimum, quoi. Il faut qu'il puisse acheter, je sais pas, un pantalon, une cravate, enfin, je suppose que c'est... Bon, voilà. Donc, on en reparlera. Ce que je voulais dire, c'était que j'étais extrêmement content, et je le dis, oui. Parce que, finalement, on va là découvrir que les Français sont extrêmement malins. Surtout les électeurs de la droite nationale, ils sont très 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 malins. Ils sont très malins. Parce qu'ils auraient pu voter bêtement Le Pen au premier tour. Bon, ils se sont dit, pas la peine, parce que Le Pen ne sera jamais élu. S'il est élu, s'il est au deuxième tour, il fera passer son concurrent. Donc on va voter directement pour le vainqueur. Et d'autant que le vainqueur, il a les idées de Le Pen. Hein? Oui, c'est Sarkozy. C'est Sarkozy, c'est Le Pen, plus jeune, plus petit aussi, il faut bien dire. Et puis il parle moins bien. Enfin, ça, je parlais pas bien beaucoup, mais on comprend. Oui. Voilà. Alors, ils ont voté pour Sarkozy. Mais ils ont fait ça dans l'intérêt national. Ils aiment la France. Alors, je me suis amusé quand même à... Et ils ont gagné. Voilà. Maintenant, le président de la République, c'est M. Sarkozy. Alors, M. Sarkozy, il faut savoir quand même que quand un jour il dit à De Villiers, vous savez, quand, le soir de son élection, il a dit « J'aime la France, d'un amour charnel, patin couffin ». Je ne sais pas qui lui a écrit le discours. Si, vous savez. Qui c'est?
Guéant.
Ah, c'est Guéant?
Oui, c'est Guéant.
Le Guéant de la pensée.
Qui écrit, ils sont deux.
Ah bon, alors il a dit « J'aime la France, d'un amour... Oui. »
Bon, c'est difficile de dire autre chose le soir de l'élection.
Bah non, quelques temps avant, il avait dit à Villiers « Toi, tu aimes la France, ton histoire, ses paysages, moi, tout ça, ça me laisse froid. » C'est pas mal, quoi. Mais sur ce point-là, au moins, je dis bien sur ce point-là, au moins, il est d'accord avec Pomponnette, hein. Parce que Pomponnette avait été interviewé par Libération, et à Libération, elle avait dit « Je suis fier de n'avoir aucune goutte de sang français dans les veines. »
Ah oui,
c'est la dame, on appelle ça maintenant Première Dame de
première
France.
Première Dame de France.
Vous me direz que...
Ça l'embête, elle veut pas le faire. Elle
on peut peut-être
dit,
lui retourner le compliment aussi.
Oui, on peut peut-être aussi. Oui, moi je suis assez fier que cette femme-là n'ait pas une goutte de sang français. Mais il faut dire aussi, on peut aussi faire remarquer que les reines de France, souvent, n'avaient pas une goutte de sang français dans les veines.
Voilà. Oui, mais elle s'en vantait pas, elle s'en faisait
elle
pas un sujet
pas
de fierté.
Elle
n'en
était fière, non, bien sûr. Et alors, Monsieur Sarkozy, il a tout de suite nommé des conseillers. Alors, parmi ses conseillers, il a nommé, bien entendu, Monsieur Georges-Marc Benamou. Georges-Marc Benamou, qui était le fondateur de Globe, je ne sais pas si vous vous rappelez,
Globe,
et de la Tonton Manie.
Et l'ancien idolâtreur de Tonton. Alors lui, il avait dit, bien sûr, nous sommes résolument cosmopolites, bien sûr, tout ce qui est terroir, béret, bourré, bignou, bref, franchouillard ou cocardier, nous est étranger, voire odieux.
Ça se demandait s'il fréquentait vraiment Mitterrand, qui se fait photographier devant un clocher et qui aimait bien le saucisson, l'andouillette et tous les produits du terroir.
Alors, il y a un autre conseiller, quand même, de M. Sarkozy, qui est Arnaud Klarsfeld.
Ah oui, c'est pas inintéressant non plus.
Alors, c'est intéressant parce que je crois que c'est la première fois qu'on a un conseiller officiel du président de la République qui est un ancien garde frontière dans l'armée israélienne, c'est ça. Et lui, il est pour l'ouverture des frontières, mais en France. Là-bas, il serait plutôt pour qu'on les ferme. C'est normal, d'ailleurs, parce que moi, chez mon voisin, j'en ai rien à foutre qu'il laisse les fenêtres ouvertes. C'est chez moi que je vais les fermer.
Bien sûr.
Il a raison, cet homme-là.
Puis ça marche comme sur des roulettes pour lui.
C'est oui. Mais il était vexé parce qu'il s'est... Ah, ça, il faut le raconter. Ouais. Il s'est présenté dans le 12e arrondissement. Il se présente dans le 12e arrondissement. Alors, il est allé faire les marchés. Alors, il a été reçu avec les honneurs du à son rang. Alors qu'en gros, les gens lui ont dit « Qu'est-ce que tu viens foutre ici ? Barre-toi, t'as jamais vu, etc. » Il y a un type qui lui a dit « Mais t'as pas mis tes roulettes aujourd'hui ?» Et mais pourquoi il se présente dans le 12e arrondissement ?
Ah oui, bonne question.
Parce que, dit-il, j'ai des attaches dans le 12e.
Intéressant.
Quelles attaches dans le 12e ?
Quelles attaches ?
C'est pas dans le 12e. Le 12e, c'est plutôt le quartier chinois, non ?
Oui.
Mais, c'est le bout.
Oui.
Il est pas chinois, en plus.
Non.
Je veux dire, parce qu'il n'est pas garde-frontière sur le fleuve Amour.
Non.
Je suis bien d'accord. Alors, pourquoi ? Eh bien, on lui pose la question. Il dit, parce que c'est là que j'ai été hospitalisé le jour où on m'a transporté sanguinolent après que j'ai été passé à tabac par les sbires de Le Pen, pour être monté sur la scène pour lui dire que c'était un nazi. Alors il se trouve que moi j'étais là, c'est passé sous mes yeux, enfin au-dessus de mes yeux, puisqu'il était sur la scène et moi j'étais devant. Et j'ai assisté à toute la scène. Alors ça se passe de la façon suivante. Il monte et il se précipite sur Le Pen, il enlève sa veste et il apparaît. Il apparaît en t-shirt avec Le Pen nazi. Évidemment, la protection de Jean-Marie se précipite. Et le ceinture, il n'y a pas la moindre violence, il n'y a pas le moindre...
Ils ne sont pas fous, les gars.
Il le ceinture.
Bien sûr.
Et il le reconduit en coulisses. Ça prend exactement 4 secondes. Le Pen, d'un geste, fait signe qu'il ne faut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, surtout. Et on l'embarque. Donc, ils se retrouvent embarqués. Et là, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui demandent qu'il va retirer ton t-shirt. Et puis... pour qu'il y ait un peu d'équilibre thermique, puisque tu vas te retrouver torse nu, on va aussi t'enlever ton pantalon. Ouais. Alors il lui enlève son pantalon,
c'est charmant,
et il le raccompagne dans la rue. Il dit, maintenant tu vas rentrer chez toi, il se trouve en slibard
dans la rue.
Dans la rue. Et là, il y a une voiture de police qui passe et qui l'embarque.
Attentat à la pudeur.
Non, alors, ça se passait au Zénith. Donc s'il avait été blessé, il aurait été transporté à la Riboisière.
Ah oui, bah oui.
Or, il dit qu'il a été transporté à l'hôpital Rothschild.
Ah, oui, ça, mais c'est bon. Ça fait question.
Alors, sauf si vous voulez commander une paire de lunettes, on voit pas ce qu'il avait à y faire.
À y faire, oui.
Et en plus, l'hôpital Rothschild, c'est les Buttes-Chaumont. Mmh. Et sauf modification récente de la géographie parisienne, les Buttes-Chaumont ne sont pas dans le 12e arrondissement. Donc, monsieur.
Il a des attaches, quand même,
la gueule du monde. Voilà.
Mais non, attendez, il a dit qu'il avait traversé le 12e une fois qu'il avait couru le marathon de Paris. Ah, ça, c'est quand même une attache indéniable.
Ouais. Mais il l'a traversé en courant.
Voilà.
Intéressant.
Bon, il y en a d'autres. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire le livre journal, parce que tout ça est raconté en long, en large.
Dans l'éditorial, qui a été corrigé pas plus tard qu'hier à l'imprimerie par notre divin marquis, qui, au bout de 2 minutes, a commencé à suer à grosses gouttes et à dire qu'avec ça, il n'était pas prêt d'avoir sa légion d'honneur.
Voilà.
Alors,
j'ai dit ça. Ouais. Mais oui, en corrigeant votre texte, je dis, oh là là, la Légion d'honneur s'éloigne.
Mais vous savez, si vous avez la Légion d'honneur, ce qui vous arrive, vous êtes viré immédiatement.
Ben oui, c'est comme au canard enchaîné. Mais je connais les clauses.
Faut choisir.
C'est pour ça que je vais refuser. Si
c'est dans le Libre Journal dont je donnerai les références tout à l'heure pour les auditeurs qui notent que ce numéro 408 est passionnant. Et ça, c'est que l'éditorial.
Et alors, il y a une photo de la une que.
De Guy Moquet.
Non,
de Mondial Moquet.
Bon Dieu.
Non.
J'ai dit une bêtise.
C'est pas la première de l'émission en plus. Je sais pas si je veux vous garder parce que franchement, moi je voudrais faire une émission sérieuse.
Balancer. Ouais, c'est foutu ça.
Non mais on peut pas. Vous êtes excessif. Enfin, je vous le dis. Non, n'empêche que pour en revenir au président Le Petit, vous avez remarqué que c'est avant le camembert
président. C'est président, maintenant c'est camembert le petit. Oui.
C'est bien meilleur d'ailleurs.
Je sais pas. Faudrait demander à Françoise qui préfère le petit ou le camembert.
Il faut laisser se faire pendant 24 heures.
Est-ce que vous aimez le camembert,
François? Je vais vous en parler tout à l'heure parce qu'il y a un drame qui touche de près le camembert avec la thermisation du lait, c'est-à-dire qu'on le fait bouillir légèrement et que pour échapper à tout contrôle sanitaire imposé par la communauté européenne, brusquement, le camembert perd ses qualités organoleptiques s'il n'est pas fabriqué essentiellement au lait cru.
Mais je croyais que c'était fini, ces trucs-là.
Non, du tout. La plus
ça grande, recommence.
Une des meilleures et des plus importantes coopératives, la célèbre coopérative d'Isigny-Sainte-Mer, qui est entrée dans la légende le jour du débarquement, le D-Day, étant donné qu'un parachutiste, un courageux parachutiste américain est resté accroché dans le clocher et qu'il est devenu sourd parce que les cloches carillonnaient. Donc Isigny-Sainte-Mer thermise son lait et retire son appellation lait cru. Vous savez tous sur le secret du camembert, car il existe à Camembert quand même quelques petits artisans qui, eux, ne chauffent pas leur lait et produisent encore des vrais camemberts. Une trouvaille gastronomique française que nous devons à Marie Harel. Marie, merci beaucoup.
Encore une bonne nouvelle. On continue.
Donc, l'autre bonne nouvelle, c'est que Kouchner ne soutient pas l'UMP d'Anjan. C'est quand même fabuleux ce gouvernement. Ça fait une semaine même pas qu'ils sont en poste. Hein. Alors on sait déjà que monsieur... Comment il s'appelle, Schmitt, c'est ça?
Que pour moi.
C'est le type qui s'occupe de la... La lutte pour la pauvreté. Non.
Ah non, mais il n'est pas ministre, il est haut commissaire. Oui, c'est l'ancien d'Emmaüs.
Voilà. Alors ça, d'ailleurs, il nous avait dit 14 ministres, pas plus. Hein.
Hirsch. Ouais, c'est ça, je et 250 secrétaires d'État.
Alors, 14 minutes, pas plus. Bon, alors il y a 14 ministres, après c'est secrétaire d'État, après les hauts commissaires, des machins. Bon, c'est exactement la même arnaque que d'habitude. Il s'agit de filer des prébendes à des copains. Parce que vous savez que quand vous avez été ministre 2 heures, vous êtes ministre à vie.
Oui, c'est pour ça qu'on essaye.
Et voilà. Mais oui, mais non seulement la Légion d'honneur, mais le ministère.
Je préfère la bagnole.
Alors, monsieur Hirsch, donc, est contre, il est contre la franchise. Ça m'étonne pas, d'ailleurs. Et monsieur Kouchner, lui, il est contre l'UMP d'Angers. Je sais pas pourquoi il en veut spécialement à d'Angers. Si, c'est parce qu'il se présente contre Montebourg. Donc, vous avez un ministre.
Attends, je comprends rien.
D'Angers, il est candidat aux législatives. D'accord. Il est UMP. Mmh. Donc, il est du parti, du président de la République, voilà. Qui a nommé monsieur Kouchner. Ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, ministre étranger aux affaires également.
Comme Christine Ockrent. Étranger aux affaires.
Et Kouchner dit, moi je ne soutiens pas M. Dangean, donc le ministre des Affaires étrangères soutient un candidat
d'un autre bord.
Non seulement du bord d'en face, mais je crois qu'on n'a pas fini de rigoler. On va avoir le quinquennat, d'abord ça sera un quinquennat de 2 ans, le plus rigolo de l'histoire de la... De la République.
Ça démarre pas mal, c'est vrai.
Ça compte bien. Ouais. En revanche, Schmitt, il est contre, Hirsch, il est contre. Maître Varro, qui est candidat villiériste, lui, il a refusé le soutien des centristes, mais il a préféré prendre le soutien de M. Sarkozy, qu'il a négocié. Il a bien raison de l'avoir fait. L'enquiquinement, c'est que Villiers avait juré croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Qu'il n'aurait pas le soutien, il ne solliciterait pas le soutien de M. Sarkozy.
Mais il y a Guillaume Pelletier aussi qui attend d'avoir le soutien, espère ne pas avoir de candidat contre lui.
En Vendée
il n'est pas en Vendée.
Guillaume Pelletier, c'est. Refuser qu'on se présente à quelqu'un le plaisir de se présenter contre Guillaume Pelletier, c'est vache parce que c'est vraiment l'élection assurée, quoi. C'est. Les doigts dans le nez. Voilà. Hein, quand les Vendéens vont arriver avec Guillaume Pelletier, ils meurent de rire avant d'aller dans l'isoloir. Voilà. J'ai vu un très joli titre dans Le Monde, je vous le dis.
Alors, ne parlons pas de cordes dans la maison d'un pendu, vous le faites exprès. C'est-à-dire, je savais que nos amis du Monde ont refusé de renouveler le mandat de Jean-Marie Colombani à la tête de leur groupe. Tentaculaire, comme ils disent eux-mêmes, alors que M. Minc, pas plus tard qu'hier, à la une des Échos, proclamait son soutien à Jean-Marie Colombani. Le Monde a perdu 19% en diffusion depuis un an qu'il a lancé une nouvelle formule. Alors, soyons charitables et passons à autre chose.
Comment on disait,
pleurons, j'ai mis ça.
Alors, le titre, c'est « L'immigration polonaise a stimulé certains secteurs d'activité ». Ryanair assure à elle seule les liaisons avec 9 villes de Pologne.
C'est les plombiers, ça.
C'est les plombiers. Les Irlandais, comme il pleut beaucoup en Irlande, ils ont besoin de vachement de plombiers, donc ils les font venir par charter entier. Et alors, je me disais, au XVIe siècle, on aurait dit l'esclavage a stimulé certains secteurs d'activité. L'armateur Mendes France assure à lui seul des liaisons avec 9 pays d'Afrique
occidentale
vers les Amériques. Comme quoi le côté stimulant de certaines activités continue, hein, parce que c'est tout à fait incroyable de titrer ça. L'immigration polonaise stimule... L'avantage de l'immigration polonaise, c'est que ça fait travailler les gens qui font voyager les immigrés. À quoi servez-vous? Eh ben, on fait tourner le commerce. C'est comme...
Il risque d'avoir des déceptions, parce que le coût du travail commence à devenir très cher en Irlande, les prix, etc. Et donc, beaucoup de sociétés sont en train de se poser des questions.
Ah. Alors, il y a une autre information, c'est que M. Fillon est un menteur.
Non, bon, ça, c'est
première nouvelle.
Il commence bien, parce que ce matin, j'ai entendu dans l'émission...
Articulez bien, hein, Fillon.
Courage Fillon.
La gauche, c'était, là, dans le Fillon.
C'était son surnom, Courage Fillon. Oui.
C'est l'attaché parlementaire de M. Joël Le Toll, célibataire endurci.
Ah, c'est... mort d'une crise cardiaque à 50 ans.
C'est comme ça, quand on présente les choses, on dit
attends,
ça comme ça.
Attends, je peux terminer ce que...
Oui, je vous en prie.
Pardon, chef.
Vous êtes chez vous.
C'est quand même moi le chef, oui. Parce que ce matin, il expliquait dans l'émission d'El Kabach que enfin, que l'annonce du bouclier fiscal avait déjà des résultats, qu'il avait déjà reçu plein de messages de gens qui disaient « Je me suis barré en Belgique, mais je vais revenir. » Parce que maintenant, alors, le Monde nous dit « En dépit des promesses de Nicolas Sarkozy, les exilés fiscaux de Belgique n'envisagent pas de rentrer. Entre 3000 et 4000 familles françaises se sont installées outre Quiévrin pour payer moins d'impôts. Le Monde a enquêté auprès de certains de ces émigrés. Dans leur très grande majorité, ils n'envisagent pas de quitter le pays d'adoption. Ils sont quand même pas fous.
On en connaît un
qui est pas prêt de revenir. Alors lui, c'est pas compliqué. Il est parti, il s'est installé en Belgique et il nous a dit récemment que avec l'économie qu'il avait réalisée sur les impôts, simplement les impôts sur la fortune, qui est un impôt de spoliation.
Et le loyer.
Rien que l'impôt sur la fortune, il vit.
Voilà.
Et puis il vit pas.
Il vit pas mal.
C'est pas quelqu'un qui fait les épluchures des marchés. Non, c'est il vit.
Expert financier observe un silence éloquent.
Je suis en train de faire les déclarations d'hier d'impôt sur le revenu et puis en même temps on profite pour faire celle de l'ISF puisque. Maintenant, avec le fait qu'on ait repoussé l'IR, donc on a les mois de mai et juin qui sont occupés, donc on essaye de faire les deux en même temps. Et c'est vrai que il y a quand même de gros prélèvements qui sont faits. Et je rencontre des gens qui ont un patrimoine important et qui sont des fois âgés. C'était le cas, je pense, à mes clients d'hier soir. Ils ont un patrimoine qui leur permettrait de faire encore 40 ans de vie ou 50 ans de vie, alors qu'ils n'ont peut-être que 10 ans de vie. Mais psychologiquement, ils sont complètement blessés par l'ISF. Je vois pas ce phénomène avec l'IR, mais vraiment l'ISF, c'est vraiment
le traumatisme. C'est vraiment honteux, l'ISF. Les gens qui ont payé leurs impôts, ils ont payé des taxes. D'abord, ils payent plus de taxes que les autres, puisqu'ils consomment plus, ils achètent plus, des choses plus chères. Donc, et quand ils ont fini tout ça, on leur colle encore un impôt sur la fortune. Enfin, ça correspond à quoi?
Et je rappelle que la suppression n'est pas dans le programme de M. Sarkozy.
Moi, ce que je remarque à la une du Monde, c'est Sarkozy en is no good une fois de plus. Alors, j'admire la créativité et l'inventivité de Monsieur Plantu, qui a supplanté Conque à la une du Monde, parce qu'il me semble que Sarko en is no good, je l'ai aperçu il y a trois ou quatre semaines à la une du Libre Journal. C'est une coïncidence.
On boxe quand même pas tout à fait dans la même catégorie.
Oui, c'est vrai. Donc, on peut pas se défendre.
Voilà. Un proche du chef de l'État va faire son entrée à TF1. Alors ça, c'est un autre titre qui est rigolo, parce que ça fait quand même maintenant des mois. Je crois qu'on a compris que j'étais pas fanatiquement sarkozyste. Mais quand même, pendant des mois, on nous a expliqué que TF1, c'était la boutique de Sarkozy. Il faisait ce qu'il voulait, il était le patron. Quand il voulait faire virer quelqu'un, il le virait, etc. Et là, on fait un titre avec le fait qu'un proche du chef de l'État, qui s'appelle Monsieur Laurent Soli, ancien directeur adjoint de la campagne électorale de Sarkozy, a rejoint mercredi 23 mai le groupe Bouygues. Ou, selon un communiqué de l'entreprise, il effectuera un parcours d'intégration. Avant de devenir, en temps voulu, membre de la direction générale de TF1.
Alors on est revenu à l'époque de Perfit.
Incroyable. Est-ce que le pouvoir va prendre le contrôle des médias?
Et votre idole Georges-Marc Benhamou a vu son émission sur Canal+, je crois, rétablie, alors qu'elle allait être supprimée.
Alors encore une information très intéressante si on la pousse un peu. Un test de dépistage précoce du sexe ne sera pas autorisé en France. Vous savez qu'ils ont inventé un test qui permet de dépister le sexe des enfants à naître. Enfin, d'identifier le sexe des enfants à naître au bout de quelques jours après la conception. Oui.
Il y a déjà assez de neurones?
Pas mal.
C'est très inquiétant d'ailleurs. En Inde, c'est très inquiétant.
En Chine. Oui.
Mais alors, en France, voilà. Le truc, c'est absolument emblématique du fonctionnement du système français. On légalise l'avortement. Bon. Et puis après, on s'aperçoit que c'est le BINS complet. C'est-à-dire que d'abord, avec ça. Les femmes, les mouvements féministes ont dit, mais attendez, maintenant, avec l'avortement, on va pouvoir intervenir en fonction du sexe de l'enfant. Et donc, on va éliminer les femmes, puisque tous les gens veulent, enfin beaucoup de gens veulent des garçons. Alors, c'est de la discrimination sexuelle. Bon. Et alors, maintenant, ils vont donc interdire, en France... au lieu d'interdire l'avortement, ils vont interdire un truc qui permet de choisir. Mais Alors attendez, je vous rassure tout de suite, si vous avez une fille, enfin si, vous, si votre, votre femme attend une fille qui est atteinte de la moindre... la moindre menace d'un petit incident à la naissance, un truc qui se soigne ou qui se traite comme
d'avoir trois bras.
Non, mais bah, un pied beau, par exemple, un pied beau, ça s'opère maintenant. Alors là, vous allez voir le médecin, il vous la zigouille en deux coulées grosses sans discuter. Hein. Mais si vous dites, j'ai un problème, c'est que ma femme attend une fille. Oui. Et alors? Eh ben, j'en veux pas. Ah, ben, est-ce qu'elle est trisomique? Non. Ah ben, enfin, est-ce qu'elle va être myopathe? Non. Ah, oh, c'est très emmerdant tout ça. On peut pas. Il faut la garder, mon vieux. Si c'est une fille malade, vous pouvez la tuer. Sinon, vous n'avez pas le droit d'y toucher.
Mais pourtant, élever une fille,
et ces mecs-là,
c'est arroser le jardin du voisin, comme on dit en Inde.
C'est vrai. Et c'est les gens qui vous disent ça sont des gens qui vous disent. On les compte, l'État nazi pratiquait l'euthanasie. Mais mes enfants, il faut ouvrir les yeux. C'est des méthodes nazies, puisque vous voulez tout le temps en parler, qui n'ont d'ailleurs été appliquées que dans les pays anti-nazis, comme les États-Unis, la Suède, la Norvège, la Finlande, où on n'a jamais hésité à exécuter les enfants anormaux ou malades à la naissance. Bon, c'est l'hypocrisie formidable de ce système. Vous voulez autoriser l'avortement? Eh bien, il faut en supporter les conséquences.
Hein, vous savez, Serge, que l'eugénisme arrive à grand bond, puisque les échos nous expliquaient il y a 15 jours tranquillement que la vedette chinoise, dont vous m'excuserez de ne pas avoir retenu le nom, voilà, du basketball. Là, la vedette chinoise du basketball, alors, qui fait 2,50 m ou 60, 200 kilos, etc., a été engendrée par un couple de basketteurs, dont une basketteuse, qui ont été, et alors là, les échos mettent des guillemets, fortement encouragés à procréer, donc exactement comme on élève des chevaux.
Ah bah bien sûr.
Bah alors.
Et c'est de l'eugénisme, c'est et les échos a l'air de trouver ça formidable. Il y a une photo.
Les chevaux élevés du basketteur chinois.
Mais l'emmerdement, c'est qu'en matière de chevaux, à un moment, il y a l'inbreeding, et ça donne ce qui est arrivé à l'écurie Boussac, où après avoir eu des cracks, comme tu sais pas à quel moment faut t'arrêter, le lendemain, tu fais des merdes.
Alors, je vous disais tout à l'heure que Kouchner ne soutenait pas la candidature de Danjean à l'UMP, mais en revanche, BHL, qui soutenait...
Les musulmans du Kosovo.
Oui, entre autres, mais surtout, je parle de la... Comment elle s'appelait déjà, la candidate socialiste au présidentiel
Royal.
Ah, Royal, voilà, c'est ça. Donc BHL qui soutenait Royal, lui, il soutient Alain Carignon, candidat...
C'est normal, c'est un tolard.
Non, mais... alors il l'appelle candidat paradoxal social.
Oh là là, quelle catastrophe.
Mais vraiment, ils sont...
Et tout ça fait d'excellents français.
Je suis content, on marche un grand pas vers le
message d'auditeur quand vous voulez. Hein.
Allez-y.
Alors, une information qui doit être intéressante. Kouchner ne veut pas soutenir Danjean. C'est Danjean, oui. Aux législatives, Danjean est le responsable de la DGSE au Kosovo, était le responsable de la DGSE au Kosovo, quand Kouchner était commissaire de l'ONU là-bas. Dans plusieurs rapports, il dénonçait la complicité de Kouchner avec les tueurs de l'UCK.
Alors tiens, à propos, je vais vous raconter une petite histoire en deux mots. Je la tiens alors là, de la bouche du cheval. Et c'est le cas de le dire, puisque c'est le transporteur qui me l'a raconté. Quand il était au Kosovo, Kouchner s'est fait livrer un Boeing de transport de matériel entier, de bouteilles de champagne et de victuailles, pour Noël.
Il a soif.
Petite misère, difficile vivre à l'étranger.
Je pensais que c'était du champagne.
Voilà. Alors, c'était la société, comment elle s'appelait cette société?
Attention.
Boustel. Boustel.
Attention au procès si on se plante.
Non, il va pas me faire, il me raconte l'histoire, après il me fait un procès parce que je la répète. Je serais beau voir.
D'ailleurs, pour Goffman, l'intervention de Goffman, par pitié que les gens présents dans le studio laissent parler Serge de Bekaj. C'est insupportable,
ces interruptions sans cesse.
Oui, alors justement, je vais pas chevaucher, mais effectivement, quand on écoute maintenant Radio Courtoisie et pas seulement le journal de Serge de Bekaj, c'est exactement comme à la télévision, tout le monde parle en même temps. Je vois pas pourquoi on n'échapperait pas à la règle. Parce que comme il faut sortir le couteau pour en placer une, c'est évident que...
Permettez-moi de vous dire que vous êtes là pour vous taire.
Non, c'est un message.
Maintenant que vous me l'avez officiellement dit, j'ai compris.
Non, c'est un message à nous tous. Serge compris. Cette élection est un désastre pour la France. Prière de ne pas couper les paroles intéressantes par des réflexions idiotes.
C'est plus
je me sens visé.
J'ai l'air de ne pas couper les réflexions idiotes pour des formes.
Alors, des informations. L'hôpital Rothschild n'est pas au Butte-Chaumont, c'est l'Institut Rothschild. L'hôpital est près de la Nation.
L'hôpital Rothschild,
ça dans le 12e, il y a un hôpital Rothschild rue de Reuilly.
D'accord. Voilà,
donc il y a plusieurs informations là-dessus. Voilà. Pouvez-vous parler de l'église de Sartrouville qui n'a pas de cloche pour ne pas gêner les musulmans ?
Si, elle a une cloche, le curé.
Bon, c'est répondu.
Oui, c'est répondu.
Je peux faire une assise.
Non, mais c'est tellement énorme.
Sous l'Empire, quand l'impératrice Eugénie... Attendez, je ne suis pas en train de prendre feu et cause pour les musulmans, mais enfin, il ne faut pas non plus s'exciter bêtement. Quand Haussmann a percé les boulevards, on s'est aperçu que du côté des grands boulevards, il n'y avait pas d'église. L'impératrice Eugénie, sur sa cassette personnelle, a fait construire une église qui s'appelle l'église Saint-Eugène. Et à côté, à l'époque, il y avait le Conservatoire National de Musique, qui restait là jusqu'en 50 et qui après a permuté avec le Conservatoire National de la Dramatique. La condition qu'avait mis l'impératrice Eugénie, c'était qu'il n'y ait pas de cloche pour pas déranger les travaux des élèves du conservatoire. Bon, alors, c'est pas une nouveauté, ce genre d'histoire. Mais je préfère néanmoins des cloches à des minarets. Mais enfin, bon, c'est pas exceptionnel.
Voilà. Encore un paradoxal social.
Pouvez-vous donner le numéro de téléphone auquel il faut appeler le FN pour être téléacteur ?
Alors,
déjà, il y a Front National.
Camarades, rejoins tes camarades. Alors, le téléphone, c'est le... il faut demander Mme Brochard au 01 41 12 10 05.
Frontnational.com.
Monsieur,
demandez le téléphone. Alors.
Monsieur de Beckett, je vous posais la question suivante. Peut-on être catholique et fasciste? La réponse est Léon de Grelle.
Je le savais.
Bah, évidemment.
Et puis, c'est pas la seule réponse, je peux vous le dire. J'en connais un autre, moi.
Et trois petites questions.
Je croyais qu'il était nazi, mais
trois petites infos politiques.
Beaucoup dire. Tout ça est très exagéré.
Depuis l'élection de Sarko, on occulte dans les médias les forces nationales, FN, MNR et...
Non, MPF. D'abord, la preuve, c'est que je vais avoir au téléphone tout à l'heure Bruno Maigret. Donc,
voilà. Sinon, que devaient faire les électeurs au deuxième tour? Si c'était la royale, c'était le cancer généralisé. Sarkozy, c'est seulement une grosse grippe.
Eh ben, ouais, vous allez voir la fin de la grosse grippe.
Oui.
Ce qu'il fallait faire, le chef l'a dit. Alors,
personne n'a obéi. Le chef doit suivre ses troupes.
Qui est un peu rêveur. Ne pensez-vous pas que Sarko prendra des gens de chez De Villiers au gouvernement après les législatives? Il avait dû les prendre, ça serait avant les législatives, à mon avis. Mais... Et Serge de Beckett a-t-il lu La femme fatale concernant le couple Sego-Hollande?
Par contre, on débagoule dans le Libre Journal sur le couple Sego et le couple Sarko. Mais alors là, vraiment, c'est lâché. On enterre ici Paris et tout ça. C'est pas pour vendre à tout prix le numéro 408 du Libre Journal où ces détails sordides sont tartinés, mais je suis obligé de le dire puisqu'on me pose la question.
Non, La femme fatale, j'ai pas lu ça.
Moi, je l'ai lu. Ça raconte ce qu'on disait dans les dîners en ville il y a un an et demi.
Et dans le Libre Journal, il y a 6 mois.
C'est de qui?
C'est deux journalistes du Monde.
Raphaël Beck.
Ah bah dis-le alors, vas-y.
Et Ariane Chemin, dont je voudrais dire que j'ai raconté ici même il y a 3 mois que je l'ai rencontré au Franprix de la rue Mouffetard et que cette andouille-là, elle posait un panier avec 40 articles dedans, par terre. Et puis elle se baissait, elle ramassait un article. Et alors, au bout de 10 fois, je lui dis, c'est pas que je suis pressé, madame, mais je me fais des soucis pour votre dos. Puis-je vous suggérer de mettre le panier au bout du tapis roulant? Et elle me regarde avec des yeux émerveillés, exactement comme la nana qui m'avait pris en stop, dont j'avais vidé le cendrier, et qui m'avait dit, ah ben vous alors? Parce qu'elle allait changer de bagnole à cause de ce cendrier.
Tu la rends bien crédible hein, avec son bouquin. D'accord. Mais ça raconte ce qu'on savait tous dans les dîners en ville, c'est que c'est une histoire d'amour qui a foiré. Il me dit, mais tu me trompes, je me présente à la présidence de la République. C'est écrit en toutes lettres dans La femme fatale. Voilà.
Ah ouais.
Juste après le deuxième tour, c'est ça qui est remarquable. Nous, c'était dans le Libre Journal 6 mois avant, et elle sort ça, ce bouquin-là, après le premier tour.
C'est un SMS qui est parti là où il n'aurait pas dû aller, c'est-à-dire sur le téléphone de la légitime. Voilà. Et moi, je le tiens d'un député socialiste que vous connaissez et qui, généralement, ne raconte pas n'importe quoi. Et on trouve ça dans un bouquin 1 an et demi après. Comme quoi, il faut nous écouter dans les dîners en ville.
Comme quoi, il faut s'abonner au Libre Journal.
Je pense qu'il y a encore des gens qui lisent France Dimanche et ici Paris, là-dedans.
Oui, c'est pas la peine.
Alors, la suite des questions.
Alors, monsieur de Bekech, pouvez-vous confirmer que messieurs Yannick Noah et Jamel Debbouze ont bien quitté la France comme ils s'y étaient engagés?
Si ça recose ou pas,
c'est vrai, au fait.
Je me casse.
Mais c'est la bonne nouvelle.
Non, mais Noah est revenu sur ce,
ah
sur
bon
ses dires. Oui, paraît-il, il a dit que oui, il avait un peu exagéré. Alors, je sais, on ne sait pas plus pour l'instant.
Exagéré, c'est-à-dire qu'il avait dit le contraire de ce qu'il avait.
On peut vraiment pas compter sur.
Faut pas trop croire les bonnes nouvelles.
Non, non.
La bite Feucherolles, d'ailleurs.
Serge
Debbouze a-t-il vu l'émission en aparté sur Canal+ animée par Pascal Clark qui recevait J.M. Le Pen?
Non, je ne regarde jamais Canal+.
Pouvez-vous nous
pourtant Pascal Clark, elle assure.
Ouais. Pouvez-vous nous dire un mot sur le procès Forisson contre Badinter?
Non. Très bonne idée.
Non, et après, micro, j'ai un message très méchant pour moi.
Je ferai quelque chose dans le journal.
Sur c'est dommage parce que 15 jours avant la législative, c'est bon pour nous, ça. Hein.
Un message très méchant pour moi. Donc, si j'avais écouté le camarade Rondeau, j'eus vendu mes actions Messicav, mes FCP le lendemain du 5 avril, date à laquelle il a conseillé de s'alléger. Depuis le 5 avril, le CAC 40 a gagné 6,60.
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire?
Ben, je réponds ce que j'ai dit. D'abord, j'ai dit que j'allégeais les valeurs américaines qui cotaient en dollars. Et donc je ne me suis pas si trompé que ça. J'ai parlé d'alléger, j'ai pas dit de tout vendre. Et je reste persuadé.
Ah oh mince alors, je peux rattraper le coup encore.
Et la dernière chose, c'est que je pense que aujourd'hui le marché n'est pas sain et que c'est pas parce qu'il a monté. Moi, je suis pas un devin, je suis pas capable de vendre au plus haut et d'acheter au plus bas. Je le reconnais. Ce qu'on appelle dans notre métier, je mettrai un peu d'argent dans la caisse, le market timing, ça je sais pas faire. Je pense que le marché aujourd'hui n'est pas sain et qu'il n'est tiré que par une chose, c'est par les opérations donc de rachat d'entreprises, etc. Et donc ça ne comporte pas l'ensemble des valeurs les valeurs, il y a aujourd'hui monsieur Toiti qui est une personnalité importante en matière financière dans les banques populaires en analyse qui dit que le marché peut continuer à monter mais il parle de valeurs qui sont chères aujourd'hui et je considère que les valeurs sont chères, que la prime de risque entre les placements risqués et les placements non risqués n'est pas suffisante. Voilà, et qu'il y a aussi quelques éléments de financiers, on en a parlé sur les crédits, les subprimes, les opérations d'investissement dans les hedge funds, etc., qui font que le marché, pour moi, reste fragile.
Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec mon fric? Voilà, c'est la question.
Il faut se diversifier, il faut être investi dans plusieurs choses, il faut aujourd'hui avoir des liquidités qui permettront.
Mais avec 20 euros, qu'est-ce que je peux faire? Je peux acheter deux actions à 10
euros. Et moi, je préfère offrir à certains moments 4% à un client en intérêt que obtenir du 7 ou du 8% si c'est risqué.
Il faut diversifier un soir chez la serre, un soir chez Dufour, un soir chez...
Au troisième. Je vais donner la parole à François tout de suite, mais je voudrais faire remarquer quand même une chose, c'est qu'on a maintenant confirmation que les banquiers sont des voleurs.
Non.
Non, mais c'était pas sûr. Il y avait encore un doute.
Encore un doute.
Balzac avait des soupçons déjà.
Et alors?
C'est l'affaire des crédits, ça. Des assurances crédits. Ouais.
11 milliards 500 millions d'euros, ils ont volé quand même.
Seulement ? Seulement ?
Non, mais là, carrément volé, puisque c'est de l'argent qu'ils auraient dû reverser à leurs clients et qu'ils ont gardé dans leur caisse. Alors, ils disent pas que c'est pas vrai, ils disent que c'est scandaleux de dire ça. c'est génial.
Oui,
c'est... Hein ? Oh, les dents. 11 milliards 500 millions d'euros. Ça représente 2000 euros par foyer et propriétaire. Tous les gens qui ont emprunté de l'argent pour acheter une maison devrait recevoir un chèque de 2000 euros.
Et après, monsieur, quand je pique ton autoradio dans ta bagnole, tu veux qu'on me fusille.
Bah oui.
Alors, c'est pas normal, respect.
Je note au passage qu'il y a un problème entre Sarkozy et Scooter. Vous avez remarqué? Son fils s'en fait piquer, enfin son fils. Fils de sa femme.
Son fils à lui.
Ah, c'est quand même le fils de sa femme.
C'est pas le mari de sa femme, des fois?
Bon, c'est trop compliqué.
C'est ça, les familles.
En tout cas, le fils se fait piquer son scooter et la fille se fait renverser par un scooter. J'espère que c'est pas le même.
C'est pas vrai. Et la fille se fait renverser.
Le mannequin de Givenchy partout?
Oh, j'en sais rien. En tout cas, elle a été renversée. Ben, on peut blaguer parce qu'elle
a rien. Ah oui, je confonds avec
la fille de Villepin.
J'ai un, oui, Oui. J'ai un ami qui était sur place dans les secondes qui ont suivi, les minutes qui ont suivi.
Il est pas sur le scooter, quand même.
Non. Dieu, heureusement qu'il pilote pas un scooter parce qu'on serait beau, tiens. Déjà au volant de sa 4x4, il est. Bon. Il téléphone et il lit en conduisant.
Ah d'accord, oui. Des fois. Cumule les handicaps.
Il donc, fume le cigare aussi, peut-être.
Non, il fume pas. Non. Et alors, je ne dirais pas qui c'est parce que non. Ça a attiré des ennuis au docteur Plantet, mais n'empêche que quand même.
Elle a eu une grosse peur, alors, la jeune fille.
Hein? Elle a eu très peur, mais dans les minutes qui suivaient, il y a eu 50 000 flics qui se sont précipités. Très c'est bien. Arrivé de partout. Parce qu'elle était avec sa mère.
Laquelle?
La femme de son père.
Voilà.
Attends voir.
La petite fille des voilà. Musiciens.
La petite fille d'Albéniz.
Voilà.
Et elle s'est, donc la mère s'est précipitée quand elle a vu sa fille renversée. Et alors naturellement, il y avait un flic qui était là, qu'on recherche d'ailleurs, ce qui est génial. Il recherche le flic parce que lui, il a fait les premiers soins, c'est-à-dire il l'a mise en décubitus latéral, c'est ça, hein, enfin sur le côté, ouais. Pour que et puis il est parti.
Il a fait son boulot. Quand
il a fait son boulot. Il a protégé le lieu de l'accident, et puis il est allé à son travail. Et alors, on le recherche pour le féliciter. Je pense qu'on va lui coller la Légion
d'honneur. Ouais. Ça y est, encore une en moins.
Et en tout cas, donc, tout le monde a vu que c'était madame, la première dame de France.
Qui, le premier drame de France, oui.
Et alors, dans les secondes ou les minutes qui suivaient, alors ça a été des milliers de flics qui ont déboulé de partout, des voitures, des ambulances, comme s'ils voulaient l'emporter à l'hôpital en plusieurs voyages, enfin. Voilà. Donc, au moins, il y a quelqu'un qui n'a rien à craindre de l'insécurité routière à Paris, c'est les enfants de Sarkozy.
Ah, c'est quand même fait culbuter.
C'est un début.
Et puis, dernière chose, ben non, c'est tout, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, ben la bourse, on en a parlé, je voulais vous demander. Alors, elle monte ou elle descend? Donc elle monte.
Elle monte. Jean-Pierre Rondeau. Ah, c'est tout, c'est fini.
Elle monte, oui, oui, elle monte.
Donc il faut acheter.
Aujourd'hui. Non, moi non. Je ne conseille pas d'acheter. Si vous n'avez rien, vous pouvez acheter une petite partie. Mais si aujourd'hui, je ne suis pas acheteur.
Acheter au son du canon, voilà. Vendez au son du violon, comme nous disons dans notre jargon.
Je ne suis pas acheteur. C'est-à-dire que... Non, mais c'est un très bon slogan.
Comment ai-je pu penser une seule seconde à ne pas penser une seconde à demander conseil à Goffman pour faire fortune?
Ah, mais c'est le marquis qui me donne des leçons quand je lui demande comment il peut s'offrir.
Actuellement, j'achète des éventails. J'achète environ 20% de valeur. Uniquement française, européenne, notamment européenne, pour profiter de l'économie allemande, etc. Mais voilà.
Bon.
Je voulais dire juste un mot,
si vous
permettez, sur le, vous savez, le feuilleton Suez-GDF que Patrick aime bien. Pendant la campagne électorale, Sarkozy avait dit qu'il, parmi les pistes évoquées, que ça serait bien que il y ait un rapprochement avec la Sonatrach. La Sonatrach, donc vous savez, c'est ce qui exploite le gaz.
C'est pas le truc qui loge les travailleurs immigrés.
Non, c'est pas la Sonacotra, c'est la Sonatrach. Et donc c'est un organisme algérien dont toutes les ficelles sont tirées d'ailleurs par les politiques les algériens qui vivent sur le dos de leurs compatriotes. Et donc Sarkozy avait dit que ça serait une bonne idée de rapprocher, notamment pour sécuriser l'approvisionnement en gaz de la France. Bon, et on pouvait se dire que c'était un petit artifice de campagne, mais pour récupérer quelques voix, mais là, les Algériens ont répondu, la Sonatrach, mais donc comme la Sonatrach, c'est le gouvernement algérien, a coupé court en jugeant un tel projet économiquement irréalisable et politiquement incorrect. Mais ça n'empêche pas que, à nouveau, le Sarkozy aujourd'hui déclare de nouveau que ça serait une des pistes envisagées. Voilà. Je trouve ça assez lamentable.
Je crois qu'on a, pour l'instant, on n'a pas fini d'explorer les ressources du nouveau président et de son équipe en matière de lamentable.
Elsa Popine.
Voilà. Oh, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un portrait. Alors, je vais le publier, je pense, dans le Libre Journal. Un portrait de Stavisky. Et qu'il a retouché, il a fait sauter la moustache. C'est hallucinant, et c'est ça Sarkozy. C'est absolument hallucinant. Curieux, hein. On se demande pourquoi, hein.
On peut se poser des questions.
Alors, François Robotte, quand, avec tout le fric qu'on a gagné avec les conseils éclairés de Jean-Pierre Rondeau,
où va-t-on dîner?
Eh bien, le Marquis l'a évoqué, on peut aller chez Lasserre, ouais. On peut aller au Grand Véfour. Ouais. Je vous précise quand même que René Lasserre, qui a été un très grand restaurateur, nous a quittés il y a quelques années. Il était de Pau. C'était un homme assez exceptionnel. Il a accueilli les grands de ce monde. Le Véfour, immortalisé par Raymond Oliver, qui nourrissait son amie Colette, puisqu'ils étaient voisins de palier, ou presque. Et Cocteau, exactement. Tout le monde habitait au Palais Royal. Donc, ces deux fleurons de la restauration française appartiennent aujourd'hui à des fonds de pension américains.
Oh.
Voilà, encore une mauvaise nouvelle pour l'ami Goffman.
Comme le PSG.
Voilà, alors...
C'est là qu'il sert des camemberts pasteurisés.
Oui, thermisés. Il y a le pasteurisé qui est totalement différent, qui est absolument, on ne va pas citer de marque parce qu'on aura des ennuis, mais ça commence souvent par des... Il y en a qui se réfèrent à certains présidents, vous voyez ce que je veux dire, et ça c'est du pasteurisé, alors ça n'a strictement aucun goût, c'est du plâtre, si vous avez un problème chez vous, une fissure à boucher, éventuellement, ça sèche rapidement dès que c'est sorti du réfrigérateur. Alors, j'ai un de mes dadas, moi, c'est les guides gastronomiques. Ça me poursuit depuis très longtemps parce que j'ai eu la chance ou la malchance, parce que ça s'est mal terminé pour le guide Hachette dont je me suis occupé. Et là, il y a un guide qui existe depuis de nombreuses années qui s'appelle le Petit Futé.
Ouais.
Et ce Petit Futé est devenu rusé car il a créé deux catégories nouvelles parce que les guides, ça se vend plus et ils savent pas comment faire pour faire parler d'eux. Alors, ils ont créé une catégorie concernant les as et une catégorie concernant les cancres. Et ça se passe à Strasbourg et le responsable de l'édition locale alsacienne, je n'ai pas l'accent, qui s'appelle monsieur Fabrice Gutapfel, invoque la liberté de la presse. Et il a carrément bousillé un marchand de téléphone qui s'appelle Fonaus, un coiffeur qui s'appelle Saint-Algue, un glacier qui s'appelle Capriccio et une boutique de mode qui s'appelle Tazio parce que, paraît-il, dans tous ces établissements, on est très mal accueillis. Moi, je voulais vous parler, et ça nous intéresse particulièrement, ils ont également traité de cancre. On a tous été plus ou moins cancre à une époque de notre vie. On s'en est pas trop mal sorti, je crois, messieurs, non, tout va bien. Non, vous avez des souvenirs de cancre?
Oui, le cheveux radiateur était bien, bien chaud.
Voilà. Au piquer les mains sur la tête avec le bonnet d'âne. Il y a deux établissements à Strasbourg. Un qui est à l'ombre de la cathédrale qui s'appelle Pierre Bois et Feu. Très joli nom parce que c'est un professionnel. Il n'a que 20 couverts. Ses spécialités, c'est la cuisine des fleurs. Je n'y suis jamais allé. Alors, je ne vais pas faire de commentaires, vous dire si c'est bon ou si c'est franchement dégueulasse. N'ayons pas peur des mots. C'est pas très bon, me dit le marquis.
Dégueulasse. Il dit des gros mots, alors continue.
C'est très mauvais, voilà.
Le restaurant est très mauvais.
Oui, non, mais c'est les fleurs, vous n'aimez pas les fleurs,
Moi non plus, je n'aime pas les fleurs. Je préfère offrir de la moutarde que des fleurs, voilà, mais c'est un choix.
C'est pas la restauration, c'est de l'épate.
Et oui, parce que ce brave homme fait également une entrecôte de Salers qu'il cuit à la plancha et qu'il termine devant les clients au fer à repasser. Ça m'a beaucoup séduit, parce que je l'ai quand même interviewé malgré tout. Bien que je ne sois pas allé à Strasbourg depuis très longtemps, je fais mon travail avec beaucoup de conscience. Vous le savez, messieurs, merci de me le dire. En fait, c'est pas pour la qualité de sa cuisine qu'il est classé dans la catégorie des cancres, c'est parce qu'il a refusé l'envoyé spécial du guide Le Petit Futé. Elle n'avait pas réservé, c'était complet, et il lui a dit, peut-être sur un ton qui lui a déplu, « Chère madame, revenez nous voir la prochaine fois ». Donc, je trouve que c'est assez fallacieux et que c'est pas tout à fait logique et tout à fait normal. Alors, un autre établissement que le marquis doit obligatoirement connaître, celui-là s'appelle le Pont Saint-Martin.
Oui, aussi, je connais, mais...
Bon, pas de commentaire.
Non, voilà.
Ne me cassez pas mes effets, sinon j'ai plus rien à dire. C'est une usine à nourrir, n'est-ce pas? 350 couverts, et là, on a critiqué l'accueil, on a critiqué plein de choses. Bon, c'est un établissement qui, à mon avis, fonctionne avec les touristes, les cars, et Dieu sait s'il y a des touristes pour visiter la cathédrale. Donc là encore, c'est la même chose, et cette fois, la rédactrice était en famille. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de place. Donc, c'est deux jugements qui ne peuvent pas logiquement mettre en cause la cuisine, que vous connaissez et que vous n'appréciez pas, et vous avez raison, et je vous fais confiance, mais ils se sont fait flinguer simplement
sur l'accueil.
Que,
oui, bon,
sur l'accueil.
C'est pas normal, ça.
C'est absolument anormal, c'est bien pour ça que je voulais vous en parler.
Ah, avant de quitter.
Si c'était dit, il faut que ça soit dit dans
le cuisine. Clairement.
Bon, ah oui, la cuisine, sinon, on ne peut pas vous en parler parce qu'on ne nous a pas laissé dîner.
Oui,
on
mais enfin, de. Pour se permettre de traiter les
de cancre,
là, ils vont peut-être un peu loin. Je voulais vous parler rapidement
avant
également.
Avant de quitter Strasbourg, je voudrais vous demander si la maison Camerzel est toujours aussi en forme, parce que moi, c'est un souvenir qui a 20 ans, mais...
Oui, la maison Camerzel a été reprise par un Alsacien qui était venu faire faillite à Paris, ce qui est assez rare pour les Alsaciens. Je cherche son nom.
Camerzel, peut-être
ça, non, pas Camerzel. C'était Monsieur Guy-Pierre Baumann qui avait lancé, il y a quelques années, la choucroute traditionnelle que l'on connaissait très peu, et la choucroute au poisson.
Ouais. Voilà.
Et il a installé un établissement au départ rue de Clichy il y a au moins 20 ou 25 ans.
C'était
absolument sublime.
C'était très bien.
Le pavillon Baltaroual et les Ternes. Et aujourd'hui, les Ternes.
Il y en a eu rue Marbeuf aussi.
Il y en a.
Oui,
le marquis, c'est tout.
Je crois que c'est là qu'il s'est flingué avec sa viande.
Alors, en plus, il a eu. Oui, avec la viande, ça n'a pas fonctionné. Il a eu un léger accident cardiaque, il s'est retiré. Il est reparti maintenant à la maison Camerzel. J'y suis allé il n'y a pas longtemps. Il y a également un hôtel. Et c'est quand même un décor prestigieux et une choucroute de qualité.
Je croyais mort, le père Baumann.
Non, allez chez Camerzel.
Pas encore. Allons à la maison Camerzel.
Bonne choucroute.
Alors, dans le prolongement...
On y avait mangé ensemble au début qu'on se connaissait, tiens, rue Marbeuf.
Je me rappelle très bien.
Oui, voilà. C'était là, il avait pris un boucher, ça se passait mal, il faisait rassir la viande,
il y avait les quartiers
très
de viande
compliqué.
Qu'on voyait dans des frigos transparents.
Mais ils ne finissaient pas au fond.
Oui, c'est là où ils voulaient tourner Rocky, mais ils n'avaient pas assez d'espace, donc ils ont complètement laissé tomber le restaurant. Voilà. C'est consécutif au guide, une compagnie d'assurance lyonnaise, un courtier lyonnais qui s'appelle C&D Assurance, qui dépend d'une dynamique filiale qui s'appelle Axellience, vient d'offrir, moyennant finance bien sûr, j'ai pas réussi à avoir la somme, une assurance contre la perte de l'étoile Michelin.
Ah, c'est bien.
Fantastique, ça.
Donc, vous souscrivez votre multirisque, plus un avenant de cotisation, le montant n'est pas connu, et ils vous garantissent qu'en cas de perte d'étoile, déjà faut en avoir une, c'est pas évident, mais si vous avez votre étoile et que vous la perdez, ils vont mettre à votre disposition un cabinet de crise qui va gérer le préjudice terrible que vous avez subi. Moyennant quand même la somme qui est allouée pour la gestion de ce cabinet de crise, c'est 25 000 euros.
Pas mal,
donc c'est amusant.
Ils font pas ça pour le bac.
Voilà, c'est le courtage.
Le bac.
C&D Assurance et une filiale d'Axellience.
Bon, entre nous, c'est fantastique cette idée là. C'est incroyable,
c'est,
ça.
C'est génial. La presse en a très peu parlé, sauf la presse professionnelle, mais la presse nationale. Silence, motis et bouche.
Vous savez que c'est une bonne idée. Il faudrait faire ça contre l'assurance contre le bac, enfin contre l'échec au bac.
Et oui, ce serait une bonne chose.
Attaque qui?
Mais non, vous n'attaquez personne.
Eh bien, vous n'avez pas
parce que là, c'est pour attaquer le guide Michelin.
On n'attaque pas Michelin, on met à votre disposition, c'est une grande spécialité, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, et je vais citer le foie gras rougier, il leur est arrivé un pépin avec la salmonelle. Ils ont géré la crise par un cabinet spécialisé, les journalistes non spécialisés, et même les spécialisés à la race à laquelle j'appartiens, qui s'y connaissent ou qui ne s'y connaissent pas, sont tombés dans le panneau, et le foie gras rougier s'est refait une virginité à la vitesse du canard qui essaye de gagner le Grand Prix.
C'est là, mais le système, en fait, c'est un peu ce que disait Coluche. Il y a donc un système de protection des pauvres qui est, quand vous n'avez pas d'argent et que vous ne pouvez pas vous offrir quelque chose, vous allez voir et vous explique comment vous pouvez vous en passer.
Ah ben, j'ai un de mes murs, j'ai des slogans qui étaient mis au début des chaînes de travail, au début du 19e siècle. Et c'est assez amusant, quand on n'a pas de, quand on n'a pas de désir, on n'a pas de privation, enfin des
voilà,
trucs comme ça.
Le sens du bonheur de l'ouvrier, c'était.
Oui, alors ça va très loin, parce que si le type reconquiert son étoile, après on se dit alors, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est fait, tout ça, c'est très compliqué.
Voilà. Je suis obligé de vous interrompre, vous nous quittez, François?
Je vous quitte.
Eh bien, bonne soirée, merci.
À mercredi prochain.
À mercredi. Et nous allons chausser, ou plus exactement coiffer nos casques. Et je répète pour Goffman qui n'écoute jamais, pas avec la pointe vers le bas, pour entendre Monsieur Bruno Maigret. Bonsoir Bruno Maigret.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Eh ben, écoutez, ça va, je suis en campagne électorale sur Vitrolles.
Alors, j'ai appris que vous présentiez presque 500 candidats, pratiquement partout, donc.
Oui, on va présenter pas tout à fait 500 candidats, on en est à près de 400, on sera présent dans près de 450 circonscriptions à travers la France, pour ce qui est déjà considérable. Bon, je ne vous cache pas que c'était pas notre intention initiale.
Mais c'est un peu la question que j'allais vous poser, parce que au départ, moi j'ai l'impression que les propositions d'Union patriotique qui avaient été faites, d'Union des patriotes qui avaient été faites, ne devaient normalement se poursuivre par une espèce d'accord de non-agression entre le FN et le MNR. Au moment des législatives, non, c'était pas un peu compris dans le contrat.
C'était exactement comme ça que j'avais compris les choses. Bon, je crois que pour être tout à fait honnête et clair, lorsque Jean-Marie Le Pen a lancé tout à fait à l'origine son appel à l'Union patriotique, il avait en effet présenté ça comme un accord qui devait se traduire par une candidature unique à la présidentielle, la sienne, et par des candidatures uniques de l'Union patriotique aux élections législatives. Bon, ensuite, c'est vrai que à cause de difficultés internes du côté de Marine Le Pen, l'Union patriotique s'est fait un peu à minima, étant entendu que nous avons soutenu, j'ai soutenu, le MNR a soutenu la candidature de Jean-Marie Le Pen, et on a dit, c'est sans contrepartie, on verra ensuite pour les législatives. Bon. Il s'agissait de l'intérêt du pays, il s'agissait d'être le plus efficace possible dans cette élection, et j'ai accepté ce principe, mais j'espérais bien évidemment que les choses prendraient ensuite forme pour les législatives. C'est pour ça que nous avons proposé au Front National des candidatures uniques FN-MNR, éventuellement avec d'autres, mais enfin en tout cas pour ce qui nous concernait FN-MNR, et nous avons fait une proposition qui me paraissait très raisonnable, 60 circonscriptions pour le MNR et donc 517 pour le Front National, ce qui correspond à peu près au rapport de force électorale qu'on avait connu en 2001. Enfin, en 2002, pardon, après le 21 avril 2002. Et le Front National a refusé. Voilà, il a refusé. Alors, nous...
Vous avez un candidat Front National à Vitrolles, par exemple?
Alors, ça va même, en effet, au-delà de ce simple refus. Parce que moi, je suis très désireux de donner corps à cette union de la droite nationale. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais après le résultat très décevant de Jean-Marie Le Pen à la présidentielle, je crois qu'il est nécessaire d'aller vers une refondation de la droite nationale qui passe par une réunification, un rassemblement. Alors, on parlera de tout ça, et tout ça, c'est pour après les législatives, mais je souhaitais, pour ma part, que cette union commence à prendre corps dès les législatives. Et pour joindre la parole aux actes, et plutôt les actes à la parole, nous avons unilatéralement, lorsque il y a eu ce refus du Front National de candidature unique, nous avons unilatéralement décidé de ne pas mettre de candidat MNR en face d'une quinzaine de responsables, leaders du Front National, comme Karl Lang, Laura Schinel, Gollnisch, Martinez, Martinelli et bien d'autres. Une quinzaine à peu près. Bon, je vous cache pas que je m'attendais à ce qu'il y ait un geste en retour, réciproque, puisque Serge De Becketch parlait de pacte de non-agression. Il y a toujours un pacte de non-agression. On ne va pas en plus s'agresser. Mais il n'y a pas eu de geste en retour. Le Front National met des candidats devant tous les candidats MNR, y compris devant son président. En clair, je me suis retiré, j'ai retiré ma candidature face à Le Pen pour la présidentielle, et Le Pen maintient un candidat face à moi pour la législative. Je trouve que c'est pour le moins inélégant.
Mais il y a forcément une explication, parce que politiquement, je ne vois pas tellement l'intérêt. Ben, c'est vrai que je ne suis pas très ferré en politique, mais je ne vois pas tellement l'intérêt d'une opération comme ça. Comment expliquez-vous, quelle est votre explication à cette animosité? Parce que c'est bien le mot qu'il faut employer.
Je ne vois pas d'explication en effet rationnelle, parce que il n'y a pas de justification politique. Je crois que ça aurait plutôt créé une dynamique, je crois que ça en aurait créé une grande à la présidentielle, s'il y avait eu vraiment la mise en scène de cette union patriotique.
Alors qu'on vous a plutôt, au contraire, mal reçu dans plusieurs réunions du Front.
Oui. Alors, précisons aussi les choses. S'agissant, par exemple, des meetings du Front National, enfin des meetings de Jean-Marie Le Pen, plus exactement, où je me suis rendu, j'ai obtenu un excellent accueil du public, des sympathisants qui étaient là. J'ai été applaudi à chaque fois, de façon très chaleureuse, par l'assistance, quand j'arrivais. J'ai eu d'innombrables témoignages de sympathie et des remerciements pour cet engagement dans l'Union de la part des gens qui étaient présents. Mais c'est vrai que j'ai été assez mal reçu par les organisateurs de l'équipe de campagne. Ça, c'est une chose. Et c'est vrai que c'est assez choquant et finalement, au-delà des questions de susceptibilité qui ne sont quand même pas essentielles dans ces affaires-là, c'est quand même choquant de constater que M. Sarkozy faisait parler M. Éric Besson, membre du Parti Socialiste qui avait commis un livre contre lui, et que Jean-Marie Le Pen ne faisait pas parler Bruno Maigret qui le soutenait. Bon, voilà. Alors, quand on sabote de cette façon une union patriotique, une espèce de dynamique de rassemblement, ça devient négatif. C'est-à-dire qu'au lieu de faire passer le message qu'il y a un courant, les gens viennent, se rassemblent derrière un candidat, on fait passer le message que les nouveaux venus et les soutiens ne sont pas les bienvenus autour du candidat.
Je voudrais vous poser une question très indiscrète, mais on m'a dit que Jean-Marie Le Pen, vous avez personnellement dit que lui était plutôt favorable à une... comment dirais-je, à une entente, mais que il avait une telle opposition à l'intérieur même de son parti qu'il était obligé d'en tenir compte. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il vous a dit ça vraiment?
Oui, c'est vrai, c'est tout à fait exact. Alors, effectivement, il me faut préciser aussi ce point qui est évidemment très important pour nos auditeurs. Je pense que Jean-Marie Le Pen était sincère lorsqu'il a fait cette proposition d'union patriotique. Je pense que s'il avait eu entièrement les mains libres, cette union patriotique aurait pris corps. Je pense aussi qu'il y aurait eu des accords législatifs. Et ça n'a pas été possible. Moi, je dis les choses crûment, plus crûment que vous, hein, en raison de l'opposition forcenée, frénétique de Marine Le Pen et de Louis Alliot, le secrétaire général du FN.
Alors, il semblerait que cette opposition se soit manifestée, y compris contre leur propre camp, puisque... on me dit que certaines signatures que vous aviez apportées ont été refusées.
Oui, c'est exact. Vous savez, il y a eu aussi une petite polémique de leur part quant au nombre de signatures que nous avons apportées, quant à l'efficacité de notre appui et de notre soutien. Là aussi, je pense que quand quelqu'un vous soutient, on a intérêt à valoriser cette personne. On se valorise soi-même en valorisant ceux qui vous soutiennent. Eux, ils fonctionnaient dans l'autre sens et ils ne cessaient de dire qu'on ne leur apportait rien. En réalité, j'en profite pour le dire au passage, nous avons apporté, c'est vrai, 16 signatures en direct. Ça peut paraître peu, mais à cela, il faut ajouter une trentaine de signatures deux maires qui avaient signé pour moi et qui ont remis leur signature à Jean-Marie Le Pen spontanément à l'annonce de la candidature de l'Union patriotique sans passer par un démarcheur du MNR, si vous voulez. Hein? Et à cela s'ajoutent aussi toutes les signatures que Jean-Marie Le Pen a obtenues parce que je n'avais renoncé à ma candidature et que nous avions cessé de rechercher des candidatures sur mon des signatures, des parrainages sur mon nom. Donc au total, je pense que ça fait largement une cinquantaine de signatures qui sont venues de notre fait et sans doute davantage encore qui ne seraient pas venues si il n'y avait pas eu cette union. Bon, ça c'est pour l'anecdote, peu importe, mais c'est vrai que c'est révélateur d'un certain état d'esprit qui est consternant, parce que pourquoi faire cela? Bon, disons-le, je vois que Marine Le Pen considère qu'elle est en situation de recueillir l'héritage politique de son père et qu'elle ne veut pas de concurrence. Mais c'était pas le problème. Et je pense que c'est quand même extrêmement grave lorsqu'on est directeur de campagne, directrice stratégique de campagne d'un candidat, que de faire passer ses intérêts d'appareil avant l'intérêt électoral du candidat qu'on est censé servir.
Dans l'hypothèse où un candidat Front National sera en position d'être élu au deuxième tour aux législatives, est-ce que vous vous appelleriez à voter pour le candidat du Front National contre un candidat UMP, par exemple?
Oui, tout à fait. Nous avons passé un accord de désistement réciproque pour le deuxième tour avec Jean-Marie Le Pen. Bon, c'est un accord, évidemment, qui servirait davantage le Front National.
Peut-être pas à Vitrolles.
Mais oui, peut-être pas à Vitrolles, mais nous l'avons passé, nous le respecterons, bien sûr.
Et vous connaissez, pour parler de Vitrolles, qui vous concerne directement, vous connaissez le candidat qu'on présente contre vous?
Oui, bah, il s'agit du majordome de Jean-Marie Le Pen, qui se présente dans cette circonscription.
Ah, mais il est du coin?
Oui, ça c'est vrai qu'il est originaire du coin, hein. Mais bon, c'était pas un politique, c'est quelqu'un qui n'est pas enraciné électoralement, n'est pas connu localement. Hein.
Quels sont vos pronostics pour vous à Vitrolles? Ma question, pour la poser plus brutalement, est-ce que vous pensez que vos anciens administrés ont gardé un bon souvenir de votre passage, au point qu'ils vont se mobiliser pour vous faire un score important, je dirais, ou est-ce que vous pensez que les Français ont la mémoire courte, comme disait un personnage célèbre de l'histoire de France?
Non, je pense ni l'un ni l'autre, je pense que ça ne se passe pas comme ça. Effectivement, là je suis un petit peu sur le terrain, je me partage entre ma circonscription et puis je fais un tour de France pour aller soutenir les candidats du MNR un petit peu partout, donc je sens un petit peu les choses. À l'évidence, sur Vitrolles, les gens sont déçus par la gauche qui a pris la suite de mon épouse, et beaucoup ont une certaine nostalgie, un certain regret de l'administration MNR. Hein. Donc ça, c'est évidemment plutôt positif, ça me fait plaisir, chaque fois que quelqu'un m'en parle, me le dit, mais mon expérience politique de terrain et mon expérience politique tout court me laisse à penser que pour les législatives, les gens raisonnent en fonction de l'étiquette, beaucoup plus qu'en fonction de la personnalité et du travail accompli par l'intéressé localement. Hein. Donc je crois qu'il faut être réaliste, les gens vont quand même voter, y compris à Vitrolles, en fonction de l'étiquette politique, compte tenu du résultat des présidentielles.
En général, qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette élection, puisque vous présentez, vous nous l'avez dit, 450 candidats, ce qui est quand même un effort considérable pour un mouvement comme le vôtre, qui est un mouvement qui a peu de moyens, il faut le dire clairement. Quel bénéfice attendez-vous d'une opération de ce genre?
Bah, si vous voulez, je pense que un mouvement politique qui rencontre des difficultés, comme c'est notre cas, qui a été occulté médiatiquement, qui a été attaqué judiciairement, qui n'a pas eu les succès électoraux qui l'escomptaient, un mouvement politique comme le nôtre ne survit que s'il continue à exister politiquement. Hein. Et pour exister politiquement, bah, dans notre système institutionnel, il faut être présent aux élections, en tout cas aux principales élections, et notamment aux législatives.
Alors c'est curieux, enfin c'est pas curieux d'ailleurs, mais ce qui me frappe dans ce que vous venez de dire, c'est que c'est très exactement la position que Jean-Marie Le Pen a toujours défendue. Depuis qu'il a créé le Front National, il a toujours dit « Nous avons le devoir de participer à toutes les élections » parce que nous sommes là pour ça et que c'est une condition, c'est la condition même de notre existence.
Voilà.
Donc, alors, moi, ce que j'arrive pas bien à comprendre, c'est que, et je le dis vraiment sans aucune fausse naïveté, ce que je n'arrive pas à comprendre du tout, c'est que des points de vue aussi proches puissent continuer à être considérés comme négligeables, et passer au deuxième plan par rapport à une affaire qui maintenant va bientôt avoir 10 ans. parce que la rupture, le congrès, etc., c'est il y a bientôt 10 ans, quoi, enfin 8 ans.
Donc, j'ai dit nous que il nous fallait exister politiquement en étant présent législatif. Bien sûr que j'aurais préféré pouvoir exister politiquement à travers ces candidatures uniques dans le rapport que je vous avais indiqué en fonction de la proposition nous avions faite. Ça aurait été bien plus efficace politiquement, bien plus efficace même sur le plan financier, puisque vous le savez, il y a un aspect financier avec ces élections législatives, puisque c'est à partir du résultat obtenu qu'on obtient la subvention d'État. Mais ce que le Front National aurait perdu en nous concédant 60 circonscriptions, il l'aurait gagné en ayant sur ses candidats le score complémentaire du MNR dans les 517 circonscriptions qu'il aurait conservé. Donc, si on fait les calculs, on s'aperçoit que tout ça est relativement neutre. Hein. Donc, vous avez raison de ne pas comprendre. Il n'y a aucune explication à cela. Ça fait 10 ans. Jean-Marie Le Pen et moi-même, nous sommes réconciliés. Nous nous voyons régulièrement, et encore il y a peu, et nous nous reverrons après l'élection. Quand je me rends dans une manifestation du Front National, que ce soit un meeting ou que ce soit le 1er mai, je suis applaudi par les gens qui sont présents. Donc, quand on essaye de cerner le problème, je le dis, il n'y en a pas d'autre que Marine Le Pen et Louis Alliot, plus quelques personnes qui gravitent autour d'eux et qu'ils réussissent à mobiliser sur cette crispation. Mais je crois que c'est criminel. Dans la circonstance aussi difficile qui est celle de la droite nationale aujourd'hui, alors que nous faisons l'objet d'une offensive de grande ampleur de M. Sarkozy pour nous anéantir politiquement, je dis que c'est criminel d'en rester à des querelles de ce type. Et quand je vois M. Alliot qui ressasse ce qui a pu se passer en 2002, alors qu'à l'époque il n'avait, enfin pas en 2002, en 98, à l'époque de la scission, alors qu'il n'existait pratiquement pas politiquement à cette époque, c'est sidérant. Je dis, il faut se ressaisir, il faut vraiment maintenant passer sur tout cela et reconstruire quelque chose qui tienne la route pour l'avenir.
Bruno Maigret, merci. On arrive maintenant à la fin de cette première moitié d'émission. J'inviterai au moins une fois un ou des candidats du MNR de la région parisienne, puisque c'est quand même la zone dans laquelle Radio Courtoisie est la plus accessible, encore qu'on est entendu dans le monde entier. Mais je voudrais quand même dire une chose, c'est que je suis frappé par la détermination incroyable dont vous faites preuve et dont font preuve les gens qui vous ont suivi. Je pense à Bertrand Robert, je pense à Nicolas Bell, je pense à toute votre l'équipe qui vous entoure.
On peut dire qu'il pleut des pierres sur le MNR depuis le début.
Il ne pleut que des pierres.
It's raining stones.
Et franchement, ne serait-ce que ça mérite qu'on vous donne la parole et qu'on vous permette de briser un peu le mur du silence qui s'est bâti autour de vous.
Bah écoutez, en tout cas, je vous en remercie.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir, Serge.
Voilà, fin de cette première moitié d'émission. Nous allons passer à la suite maintenant, à condition que mes invités soient là, je le souhaite. Car autrement, on va être bien embêtés, n'est-ce pas, messieurs?
Bon, on va causera.
Être chanter.
On causera.
Thank you.
Merci à vous tous de passer la soirée avec nous sur Radio Courtoisie. À 21h30, tout à l'heure en direct, le Libre Journal de la Nuit, dirigé par Paul-Marie Couteau. Et puis tout de suite, la seconde partie du Libre Journal de Serge de Bekech. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 19h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech, diffusé en direct mercredi 23 mai 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 24 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone 01 46 51 00 85, par télécopieur 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Bien, nous retrouvons nos auditeurs, nos auditrices pour la deuxième partie.
C'est pas sûr, ils sont peut-être tous partis.
Non, je ne pense pas. D'ailleurs, moi, je les invite tout de suite à retourner la télé contre le mur, à rester avec nous, parce que l'émission, dans sa deuxième partie, ne sera pas moins intéressante. Pour commencer, on a fait plusieurs allusions au numéro 408 du Libre Journal imprimé qui est sorti des presses aujourd'hui même. Et bon, bah, comme il faut finir et conclure ces allusions de façon positive, je vais en terminer donc en signalant que à la une de ce numéro, il y a notre candidat comme modèle pour les enfants des écoles. Monsieur Sarkozy a choisi le fils de député stalinien fusillé comme otage à 17 ans, qui est certainement quelqu'un de très honorable. Nous préférons, et nous avons mis sa photo à la une, Jacques Lorenzi, qui est mort lui à 15 ans, ce qui est encore plus fort que 17 ans et demi, et qui est mort les armes à la main. Notre confrère de minute, lui, préfère Honoré d'Estiendorf. Bon, on aurait pu faire toutes sortes de choix, mais je crois que ça fait partie, cette promotion de Guy Môquet, ça fait partie des grandes manœuvres politiciennes extrêmement subtiles de Monsieur Sarkozy, qui veut, comme l'on a accusé Monsieur Hollande, déstabiliser la gauche, et même l'extrême-gauche, et même le PCF, hein, en leur confisquant Blum, Jaurès, et toute leur personnalité, qu'ils ont laissé d'ailleurs dormir sous la poussière pendant très longtemps. Alors je disais tout à l'heure, notre divin marquis chargé de corriger l'éditorial de Serge de Bekech, intitulé « Le gouvernement de l'anti-France suait à grosses gouttes et pleurait sur sa légende d'honneur ».
Les aristocrates ne suent jamais. Vous devriez savoir ça, Goffman.
Disons qu'il avait le front humide. Tout en rigolant d'ailleurs comme un bossu pour tout dire, parce que bon, on pourrait dire, je n'oserais pas en dire davantage, mais disons qu'il y a une espèce de rafle dans la description du gouvernement qui est faite par Serge de Bekech dans cet éditorial, qui est vraiment sanglante. Et à mon avis personnel, puisqu'on me le demande pas, oui, puisqu'on me le demande pas, peut-être un peu excessive. Ça continue d'ailleurs dans les pages suivantes avec un article intitulé « Sarko Maltese n'est pas à vendre, ses propriétaires sont trop contents ». Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faisions il y a 6 mois, et non pas après le deuxième tour comme les journalistes du Monde, des révélations sur les ménages respectifs de Sarko et de Sego. Eh bien, nous gardons plusieurs longueurs d'avance, puisque nous faisons toute une série de révélations sur ces ménages encore plus sordides, encore plus scandaleuses. Monsieur Sarkozy a annoncé la liquidation de mai 68, mais on a pu lui répliquer que sans mai 68, on n'aurait peut-être pas eu un deuxième tour de présidentiel entre une mère célibataire et un cocu, si vous me permettez l'expression. François Brignot, notre monument historique, explique de façon tout à fait très sage, c'est notre vieux sage en même temps que notre monument historique, que premièrement, le gouvernement Fillon a un but, et ce sont les législatives. Et pour ceux qui penseraient que c'est une interprétation de notre part ou de la part de François Brignot, Monsieur Fillon a expliqué aujourd'hui qu'il présentait tous ses soi-disant ministres. C'est-à-dire que ça fait 2 mois avant la présidentielle, on expédie les affaires courantes. 1 mois après, on prépare les législatives. Et c'est clair, puisque tous les ministres sont envoyés aux législatives, et Fillon déclare que ceux qui échoueraient ne seraient pas dans le gouvernement. Donc, dans le prochain gouvernement. Donc François Brignot a raison. Le travail, c'est peut-être pour ça que les affaires marchent bien d'ailleurs. Le travail du gouvernement, c'est les législatives. Et il ajoute, et il explique, Brignot également, pourquoi chaque suffrage du Front National, et peut-on ajouter, après avoir entendu Bruno Maigret, du MNR, pèsera sur la suite des événements, tout simplement, puisque M. Sarkozy, ayant capté des millions de voix du Front National en s'appropriant une grande partie de son programme, eh bien, ces voix représenteront une pression sur lui pour le contraindre à tenir des promesses qu'il n'a peut-être pas vraiment l'intention de tenir.
Oh, comment vous pouvez dire des choses pareilles, franchement ?
Nous avons une revue de presse toujours aussi riche, toujours aussi brillante, avec en particulier une photographie sanglante. C'est le drapeau, la chemise sanglante que nous agitons, de notre ami Cyril Bozonnet, qui justement est candidat aux législatives pour le Front National dans le 18e dans votre Doire, mon cher marquis, à Montmartre, à la Goutte d'Or.
De l'autre côté.
Bon, enfin, dans le 18e en tout cas, je crois que c'est la 18e circonscription, si je ne m'abuse, et qui, aussitôt déclaré candidat,
c'est ça que je cherchais,
se ramasse un jet de bouteille en pleine tête, donc il y a sa photo.
Enfin, qu'il a se plaint de bouteille.
Son visage, oui, c'est pour une fois qu'on lui envoie des bouteilles au lieu qu'il se les envoie. Mais en tout cas, bon, ça n'est que moyen drôle, parce qu'il a vraiment failli perdre un œil, qu'il a un visage ensanglanté.
C'est quand même poussé un peu loin l'imitation du chef.
Mais je trouve qu'il ressemble à Joël Star.
Non, nous publions là. Il doit être content s'il est à l'écoute. Mais enfin, d'habitude, comme il me téléphone toujours à mercredi à 18h, je ne suis pas sûr qu'il soit à l'écoute. En tout cas, moi, je peux dire qu'il présente un visage ensanglanté dans le Libre Journal. Et également sur son blog, que je vais citer, parce qu'il est vraiment de très bonne qualité. Je crois qu'il a eu un prix sur le réseau récemment. Et son blog, donc, c'est l-écoparisien.oefort.com. Voilà. Nous avons un article de Blanza auquel ni le Marquis ni moi n'avons rien compris. Est-ce que vous pouvez dire un mot de cet article,
Vous dites ça, mais c'est scandaleux de dire une chose pareille.
Voilà.
Ça, c'est probablement le papier le plus intéressant du journal, et vous refusez à le lire parce que...
Attends, c'est moi qui ai corrigé.
Ah bon ? Vous n'avez pas compris ?
J'ai essayé d'expliquer à Goffman, et après, une fois que je lui ai expliqué, je ne comprenais plus rien parce que, à cause de ces questions.
Bon, il faut lire les papiers de Blanza parce que c'est une clé essentielle pour comprendre ce qui se passe en ce moment dans le monde.
C'est de la géopolitique.
C'est de la géopolitique, mais vraiment intelligente, originale, avec un point de vue extraordinairement original.
Alors ce papier, c'est l'Europe est en Turquie si la Turquie n'est pas en Europe, en quelque sorte, parce que les liens géopolitiques, comme les routes...
C'est pas ça, c'est que le sens du papier, c'est pas le sens. Ce que démontre ce papier, c'est que ils en ont, les gens qui dirigent le monde, hein, dont vous parliez tout à l'heure, Non, c'est Bosonnet qui est sanglant, ça. Ouais. Donc les gens qui dirigent le monde et se contrefoutent que l'Europe intègre ou n'intègre pas la Turquie, puisque de toute façon, la décision est prise. Ça sera fait. Alors ça sera fait soit officiellement par l'intégration de la Turquie, soit par le statut, on va en parler tout de suite avec Jean-Michel Vernochek qui publie un bouquin passionnant sur l'Europe, soit par le statut relations privilégiées qu'on va engager avec la Turquie. Mais ce qui explique très bien Blanza, c'est que d'ores et déjà c'est fait, puisque la plupart des grandes réunions internationales se passent maintenant en Turquie. Pourquoi ? Pourquoi en Turquie ? Davos, on comprend, ils vont au ski, c'est les montagnes, il fait beau. Mais en Turquie, pourquoi organiser le nombre invraisemblable de grandes réunions internationales ? Tout simplement parce qu'il faut accréditer, enfin pas tout simplement, une des raisons, c'est qu'il faut accréditer dans l'idée des gens que la Turquie est un pays moderne et un pays qui mérite d'être européen et qui est laïque et qui est tout ça. Or, manque de bol, au moment même où ils font ça, badaboum, 40 morts dans un attentat, ce qui n'est pas quand même typiquement des mœurs occidentales. Mais ça se fera. Donc le sens des papiers de Blanza, c'est de démontrer que nous, on croit qu'on a une prise sur les événements. En réalité, on n'a aucune prise réelle sur les événements parce que les choses sont décidées ailleurs et par des procédés qui nous échappent complètement. Par exemple, la construction de grands axes routiers, on a l'impression que c'est un truc formidable, la construction des grands axes routiers. Blanza explique très bien à quoi ça sert. La construction des grandes voies ferrées, à quoi ça sert. Et c'est absolument passionnant. Il faut pas dire je comprends pas, il faut lire, relire jusqu'au moment où vous allez comprendre. Je pense que vers 80 ans, Goffman, vous aurez pigé de quoi il retourne.
Mais j'espère. Alors, j'ai très bien compris l'article de Marie-Claude Monchaud, qui est notre charmante chroniqueuse depuis La Rochelle, qui oppose dans le numéro 408 du Libre Journal le Robinson suisse. Vous allez voir que l'opposition est quand même puissante. Le Robinson suisse au livre d'Azouz Begag, la pornographie officielle et obligatoire dans les écoles. Notre correspondant de New Delhi est allé faire du rafting sur le Gange.
Ça, vous n'avez pas compris non plus.
Si, là, on a tout compris, le marquis et moi, mais le marquis était pas content, je sais pas pourquoi, mais je lui demande pas pourquoi, parce que on va pas en sortir. Enfin bon, le rafting sur le Gange, c'est quand même pas, sur le Gange, c'est quand même pas mal. Nicolas Bonnal, auteur notoire, revient sur la personnalité Sarkozy.
Qu'il appelle Thermocrator.
Thermocrator, oui. On a une double page sur l'agrochimie contre la biodiversité qui est très très remarquable, très documentée puisqu'elle est signée. Oui, là j'ai tout compris. Du président des consommateurs.
Il importe de fréquenter des gens qui ont un cerveau, il va finir par apprendre à se servir.
C'est l'écologie de droite, je suppose, comme elle n'aurait jamais dû cesser d'être. On a une page livre, bien entendu. On a la page de l'abbé Guy Marie. On a les pages arrière, les préférées d'un certain nombre de lecteurs, la chronique mondaine, la seule et unique de toute la presse du marquis de Olmeta, et puis cinéma, tout ça. Donc ce numéro 408 du Libre Journal est disponible, si j'ai réussi à vous le vendre, contre un carnet de timbres, si possible, la directrice du journal Daniel de Bekech préfère, un carnet de timbres ou à la rigueur 5 euros. L'abonnement pour un an, c'est 110 euros, à l'ordre de SDB, 4 place Franz Liszt, 75010 Paris. Et le site des amis du Libre Journal, c'est francecourtoise.info, où vous pouvez non seulement trouver un bulletin d'abonnement, nos archives, des kilomètres et des kilomètres d'archives, mais également réécouter certains extraits de cette émission, francecourtoise.info.
C'est bien ce qu'ils font, ces petits jeunes là.
Très très bien.
Voilà, merci mon cher Patrick, vous avez été brillant.
Ça y est, bien que je comprenne rien.
Non, c'est pas grave, on ne pas de comprendre.
Un brillant idiot.
Non, il y a que deux pages que tu comprends pas.
J'ai remarqué quand même que, par exemple, un marchand de télévision, il ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Ça n'empêche pas de bien vendre ses télés chez Darty. Jean-Michel Vernochek, bonsoir. Bien,
bonsoir à toutes et à tous.
Alors, vous dirigez plus exactement un ouvrage collectif qui s'appelle Manifeste pour une Europe des peuples. Et qui est quand même assez prestigieux quant aux signatures, puisque Maurice Allais, Philippe Arandel, Robert Charvin, Christophe Baudouin, Nicolas Dupont-Aignan, Pierre-Marie Gallois, le général Gallois, Olivier Gohin, Pierre Hillard, notre ami Pierre Hillard, très brillant analyste des relations entre l'Allemagne et, enfin, du rôle de l'Allemagne dans la politique européenne, Édouard Husson, Pascal Léniaud, Pierre Lecomte, Anne-Marie Le Pourrier, François Morvan, Jacques Miard, qui vient souvent à Radio Courtoisie, Henri Paris et François Vienne. Et c'est un bouquin de réflexion, de proposition
sur l'Europe. Sur la refondation de l'Europe.
Alors, on est au 50e anniversaire du traité de Rome. Et on vient de porter, enfin pas moi personnellement, mais il y a des Français qui viennent de porter au pouvoir un homme qui nous a dit « Votez pour moi, je vous protégerai contre les abus de l'Europe ». En gros, c'est ça, hein, contre l'Europe des gnomes de Bruxelles, etc. À peine avait-il dit ça, d'ailleurs qu'il faisait le contraire, mais on va peut-être en parler. Est-ce que, alors, première question, quand vous dites « manifeste pour une Europe des peuples », ça veut dire manifeste pour une autre Europe que celle qui est en train de se fabriquer en ce moment.
Pour une Europe radicalement différente. Je crois que l'Europe, on ne peut pas y échapper, hein, de toute façon. Non pas parce qu'elle est déjà faite, parce que, après tout, on pourrait très bien se replier sur le précaré, mais nous risquerions, en tout état de cause, à nous transformer en une sorte d'Albanie de l'Ouest. Non, l'Europe, il y a des problèmes qui doivent se régler, que ce soit l'énergie, les approvisionnements énergétiques, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, puisque tous les produits arrivent de toute la planète. Nous sommes pris dans le grondement, dans le torrent de la mondialisation. Et ça, il y a un certain nombre de problèmes qui ne peuvent se gérer qu'au niveau européen. Ouais. Donc l'Europe...
Pardon de vous couper tout de suite, mais ce que vous dites, c'est un peu... ça fait quand même penser, par certains côtés, à un raisonnement fermé. C'est-à-dire, vous dites, on ne peut pas éviter l'Europe parce qu'il y a l'Europe, en fait, c'est ça. On décide de sortir du système, comment ça ? La France a vécu en dehors de l'Europe... Enfin, en dehors, pas en dehors, mais elle a vécu de façon... autonome pendant des siècles.
Alors il faut revoir complètement notre agriculture, nous remettre en autarcie agricole, on se transforme en Albanie.
Moi je suis pas contre.
Non mais d'accord.
Une décennie d'albanisation pour la France pour remettre les choses en ligne.
On a déjà les musulmans, on est bien albanisés. Mais voilà, nous sommes déjà bien albanisés, je crois pas que la situation serait véritablement gérable. Est-ce véritablement réaliste ? Ce qui est réaliste, c'est que nous devons d'une façon ou d'une autre protéger justement notre agriculture, assurer nous-mêmes notre défense, nous libérer de la tutelle. Après tout, cette autre Europe que je préconise et qu'un certain nombre de mes auteurs préconisent. Le général Gallois, lui, est pour le retour au précaré francophone. Hein. Ni plus ni moins, Pierre Hillard aussi souhaiterait, ouais. Qu'il y a quand même, s'exprime dans ce livre la tendance souverainiste dure. Mais encore une fois, est-ce véritablement une position réaliste ? Toute la question est là. Ce que nous pensons, c'est que l'Europe, dès le départ, on nous a vendu déjà un gros mensonge. L'Europe des pères fondateurs, on savait très bien où on voulait en venir, c'est-à-dire à la dissolution des nations, à la disparition des souverainetés et à une Europe supranationale. En fait, l'Europe telle qu'on nous la vend aujourd'hui n'est que le cache-sexe d'un grand marché économique qui a vocation d'ailleurs à s'étendre aussi bien jusqu'à la Kirghizie. Il n'y a aucune limite. Bah oui, donc ce que nous voudrions, c'est une Turquie européenne, c'est-à-dire une Turquie réelle, une Turquie des peuples, mais des peuples concrets, pas une Turquie de ses valeurs abstraites, de ses soi-disant de tous ces critères de convergence qui ne sont que des critères.
Vous voulez dire Europe, je suppose.
Oui, vous avez dit Turquie plusieurs fois.
Ah, j'ai dit Turquie plusieurs fois. Quel lapsus. Merci de me reprendre. C'est la fin de la journée. Hein. Donc, on veut nous vendre sous couvert. Alors, en fait, on pressent qu'il y a un certain nombre, les citoyens pressentent qu'il y a un besoin d'Europe. Mais encore une fois, une Europe qui doit nous émanciper, qui doit nous permettre, à nous, Français, par exemple, comme aux Belges, si tant est que la Belgique continue à exister, aux Hollandais, à exister en tant que peuple souverain. Alors là, c'est absolument tout le contraire, et nous le savons. Monsieur Sarkozy, le jour de son investiture, en fait, de la passation de pouvoir et de son discours du fauteuil présidentiel, nous a assuré qu'il défendrait la souveraineté européenne. L'après-midi même, il était à Berlin pour négocier le calendrier de cette Europe politique qui, on le sait, est une Europe supranationale. D'ailleurs, on croit
je crois que c'est une erreur historique de comparer M. Sarkozy en l'inscrivant dans le processus de Mme Thatcher. Mme Thatcher était authentiquement une patriote. Et elle avait compris où l'emmenait l'Europe. Et d'ailleurs, elle est tombée, si elle a été chassée de la rue du 10 rue Downing Street, c'est parce qu'elle voulait s'opposer à l'Europe, parce qu'elle voulait maintenir la souveraineté de l'Angleterre. Et donc, c'était pas du tout la mondialiste que l'on imagine ou que l'on nous présente. Bien sûr, elle avait une vision libérale et même au-delà, peut-être ultralibérale, de l'économie.
Qui est dans la grande tradition britannique de l'Empire.
Mais je pense que c'était une patriote sincère et qui ne serait, dont les véritables positions, notamment, il faut se référer à son dernier discours aux communes, qui était un discours incendiaire et qui a jeté à la face de tous ceux qui la trahissaient, conservateurs comme travaillistes d'ailleurs, tous ceux qui trahissaient en fait l'Angleterre. Donc nous savons en réalité que nous ne pouvons pas échapper à l'Europe, qui doit être... Nous avons perdu notre empire colonial, puisqu'il faut appeler les choses comme notre nom. Rappelez-vous qu'en 1940, l'Afrique du Nord et l'Afrique occidentale française constituaient notre profondeur de champ stratégique. Aujourd'hui, notre profondeur de champ stratégique qui a disparu au sud, eh bien nous la retrouvons en Europe. Les approvisionnements énergétiques ne se négocient pas de la France par où passeront les réseaux de gazoducs qui arriveront de Russie, ils traverseront l'Europe. Donc il y a un certain nombre de questions, mais de questions vitales qui ne peuvent se régler que par une concertation étroite entre les États européens. Et donc ça nécessite une organisation. Mais cette organisation ne sera jamais l'union telle. Ou en tout cas, si elle l'est, cela signifie qu'une chose, c'est que nous aurons nous-mêmes disparu.
Oui, il y a une autre dimension quand même dans cette insistance à nous fabriquer une Europe dont nous ne voulons pas. C'est qu'il s'agit de créer une zone, un territoire, qui échappe aux spécificités des nations qui constituent ce territoire. L'idée, c'est de faire que le nord-est de la Pologne ait les mêmes valeurs, les mêmes absences de valeurs, les mêmes absences de projets, les mêmes absences d'idées, les mêmes absences d'initiatives que le sud-ouest de l'Espagne.
Bah, il faut homogénéiser le marché.
Voilà, bon. Alors, la France occupe là, dans ce projet mondialiste, occupe une position qui est stratégiquement incontournable, comme on dit maintenant, et qui fait que, moi je suis absolument convaincu que si on avait cette idée d'albanisation dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire nous on n'est plus dans l'Europe, allez vous faire voir, on ne veut plus avoir aucune relation avec vous, on ferme nos frontières, si vous voulez passer, vous passerez, mais à nos conditions, si vous voulez nous vendre des trucs, vous vendrez à nos conditions, et si vous voulez nous acheter, on vendra à nos conditions, à nous, et puis voilà, bon, c'est un peu une utopie.
C'est une utopie.
Non seulement c'est une utopie, mais c'est quelque chose qui conduirait immédiatement, je pense, à une guerre.
Ah ben nous aurions les avions de l'OTAN qui nous bombarderaient.
Parce que ça serait considéré comme un acte d'agression contre l'Europe constituée, puisque les Allemands ne pourraient plus aller en Espagne sans traverser la France. Donc ils exigeraient une espèce de couloir de Danzig entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Les Britanniques demanderaient la même chose pour l'Italie. Donc on est dans une situation où on nous a forcés à accepter un système. Et vous disiez tout à l'heure que l'Europe de Schuman, c'était pas autre chose que ça. C'était
dès le départ. Mais c'était par De Gaulle, d'ailleurs, lorsqu'il arrive en 58, va ratifier le traité de Rome de 57 en disant « Si j'avais été au pouvoir à ce moment-là, je ne l'aurais pas signé. Mais maintenant, nous allons essayer de faire avec. » Mais d'étape en étape, de traité de Rome en traité de Maastricht, les abandons de souveraineté sont de plus en plus criants. Or là, si l'Europe politique se constitue telle que la veut M. Sarkozy, qui nous a garanti encore une fois le maintien de la souveraineté française, eh bien, c'en est fini. C'est-à-dire que la Roumanie ne pèsera pas tout à fait aussi lourd que la France, mais nous n'aurons plus que de commissaires qu'une fois tous les 5 ans. Si la Turquie entre, eh bien, nous n'aurons plus qu'un poids extrêmement relatif, et c'est à Ankara que se décidera notre sort. Ça, il faut bien le savoir.
Alors, est-ce que
et nous épouserons les guerres, et surtout nous épouserons les guerres que décidera l'Europe. Faut pas oublier que, et là je vous rends la parole, Serge, mais il y a quand même un des trucs les plus criants, un des mensonges les plus abjects. Il n'y a pas d'autre terme. On nous a dit la plus grande réussite de l'Europe, c'est la paix. C'est la paix. Il y a eu 7 ans de guerre dans les Balkans, à l'initiative de l'Europe. Une guerre qui s'est conclue par la dislocation finale et 2 mois de bombardement de la Fédération Yougoslave, sans mandat des Nations Unies. Sans mandat des Nations Unies, donc son aval, c'était un acte de guerre et d'agression tout à fait caractérisé. La France s'est embarquée allègrement là-dedans. Or, l'Europe est en train de combattre à front ouvert aujourd'hui en Afghanistan. En Afghanistan. Donc nous sommes engagés dans une guerre, et qui est une guerre à dimension planétaire.
Et l'Europe, leur fameuse Europe, elle n'est pas foutue de faire respecter les résolutions des Nations Unies, et donc dans lesquelles l'Europe est partie prenante, en ce qui concerne les relations entre l'occupant israélien et les Palestiniens. L'Europe n'est pas capable de faire régner la paix dans des contrées qui étaient les anciennes colonies africaines, où nous, on avait établi la paix tout seul. La France faisait régner la paix et la prospérité dans ces territoires. Maintenant, c'est la famine, c'est la tuerie généralisée et tout. Alors que ça serait à l'Europe d'assurer au moins un peu de... Donc l'échec est total. L'échec est total. Il est moral, il est politique, il est économique. Et on continue à vouloir nous vendre ça. Si on me dit que c'est pas diabolique, il faut m'expliquer quelle est l'inspiration qui se cache derrière ça. Quelle est la volonté méchante de nous obliger à nous noyer dans un système qui va nous broyer, c'est évident.
Bien écoutez, c'est le but, c'est de nous broyer, de nous dissoudre.
Alors,
il n'y a pas d'autre but depuis 50 ans, c'est de nous faire disparaître.
Tous les auteurs du Manifeste pour une Europe des peuples sont d'accord sur le diagnostic.
Ils sont tous d'accord sur le diagnostic. Il y a des agriculteurs de la coordination rurale. Eux, ce sont des gens raisonnables. Ils sont terre à terre, c'est le cas de le dire. Mais ils disent, il n'y a qu'une seule chose à faire en ce qui les concerne. C'est d'abord refaire une véritable PAC qui soit protectrice de l'agriculture française et européenne. Et surtout de renégocier les accords avec l'OMC. S'il y a deux grands pièges qui nous accablent aujourd'hui, c'est les liens qui nous unissent à l'OTAN, à un pacte atlantique. Pourquoi ne pas faire une défense européenne? Mais enfin, une vraie dépense, ou qui intégrerait des défenses nationales.
Mais pourquoi? Moi, ça me paraît assez simple. C'est parce que les alliances traditionnelles, elles sont toujours vivaces. Et les grands axes d'alliance, ils restent toujours les mêmes. Et on peut pas les croiser, on peut pas tricoter de nouvelles alliances si on s'appuie sur des, alors que nos traditions sont appuyées sur des alliances très très anciennes. On voit bien d'ailleurs quand il a été faussement question, parce que je suis absolument certain que c'est un piège à coin, de nommer Védrine au poste de ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une mobilisation immédiate.
Le canard enchaîné, on a parlé.
Kukierman, c'est ça, ouais. Qui a carrément posé un ultimatum.
Enfin, c'est l'ancien président, mais enfin, bon, la communauté israélienne s'est opposée parce qu'elle trouvait que M. Védrine n'était pas assez favorable.
Voilà. Et bien, Védrine, qu'est-ce qu'il représentait? Il représentait la politique séculaire de la France, la politique de relations particulières avec les pays arabes et le bloc.
Jusqu'à un certain point, vous savez que dans les dernières années, M. Védrine avait largement évolué vers un atlantisme raisonnable, mais cet atlantisme était encore trop...
Trop, c'est ça.
Cet atlantisme était encore trop peu, plutôt.
Et alors là,
trop peu,
on voit bien que l'Europe...
Ou trop raisonnable.
L'Europe a servi dans cette circonstance-là à briser une réalité historique qui est séculaire.
Et ils vont alors pas Serge, pardonnez-moi, mais vous appelez les alliances historiques séculaires, quelles sont-elles? Ces alliances, ce n'est pas avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, l'alliance est très récente. Et en 1940, lorsque la France demandait un armistice à l'Allemagne, M. Churchill a demandé l'unification de la France et de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire la fusion de la France et de la Grande-Bretagne, nous devenions une sorte de dominion.
C'est pas plutôt Paul Reynaud qui a demandé ça et que...
Non, Churchill. Hein, Churchill
qui l'a proposé.
Churchill. J'ai revu mon histoire. Là, récemment.
Mais justement, là, on est...
Et puis il y a eu Marcel Kébir.
On est exactement dans le...
Il y a eu Alexandrie, il y a eu Dakar. Ouais.
Mais on est exactement dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des questions séculaires, parce que qu'est-ce que faisait Churchill ? Il menait la
politique. Alors là, nous sommes d'accord.
De la guerre de 100 ans.
Nous sommes entièrement d'accord.
Nous, on a une politique d'alliance qui est particulière, mais par exemple, il y a une tradition de l'alliance avec la Russie.
Tout à fait.
Bon. En ce moment, cette alliance avec la Russie, elle est en train de crever.
Elle n'est pas séculaire, elle est millénaire, pourtant, Anne de Kiev.
Je pourrais ajouter qu'il y a quand même des liens entre la France et la rive sud et est de la Méditerranée qui ont 1100 ans, qui ont 11 siècles, avec le Charlemagne, la diplomatie de Charlemagne qui avait envoyé une délégation à Haroun al-Rachid, qui était le calife à Bagdad. Et Haroun al-Rachid avait à l'époque accorder la protection des chrétiens du Levant à la France. La première horloge à eau est arrivée, envoyée par Haroun al-Rachid. Et depuis 11 siècles, nous assurions ce rôle protecteur sur le Levant. Aujourd'hui, il est bien oublié, alors que la Convention révolutionnaire l'avait renouvelé. Donc il n'y a même pas eu de rupture au moment de la Révolution française.
On n'a même pas été capable de convaincre nos alliés israéliens de cesser de taper sur le Liban. Au mois de juillet, parce que c'était
l'Europe en a été incapable aussi, ce qui montre bien les limites et non seulement de la France mais de la diplomatie européenne. Il a fallu que ça soit et du Conseil de sécurité. N'oubliez pas qu'il a fallu que ça soit un organe informel de puissance qui s'exprime comme ça hors circuit, le G8, qui décide du cessez-le-feu. Mais ce n'est pas le Conseil de sécurité des
Nations Unies. Les Américains eux-mêmes ne l'ont pas obtenu et ils ont pourtant des moyens de pression.
Ils ne voulaient pas, cher monsieur, ils ne voulaient pas. Alors, si vous avez regardé... Non, mais ce n'était pas pour vous contredire, systématiquement, loin de là. Mais entre les gesticulations, les façades, on sait très bien que tout ça était une affaire arrangée. Mais ça nous éloigne peut-être un petit peu de l'Europe. Mais en tout cas, constatons que l'Europe a été d'une impuissance totale.
Si on cherche le centre du vrai pouvoir, il faut peut-être s'éloigner de l'Europe, en effet.
Alors, constatons, Serge, que pendant la campagne, nous savions, vous et moi, que le sort de la France se jouait au niveau européen, et dans le contexte de crise, de crise mondiale et de crise régionale, de crise à l'est de la Méditerranée. Or, ce sont des thèmes qui n'ont pas du tout été abordés dans cette campagne de petits boutiquiers qui a agité la France pendant 2 mois. Ils ont été totalement mis de côté.
Pour une raison assez simple, moi je crois réellement que les puissances qui décidaient de ça se contrefoutaient de savoir si ça serait Sarkozy ou Ségolène qui serait élu, parce que c'est exactement comme le propriétaire de la maison à qui on dit bah aujourd'hui c'est pas Jules qui va nettoyer les carreaux, c'est Marie-Louise. Je m'en fous.
J'aurais tendance à adhérer à ce raisonnement. Ils étaient gagnants sur tous les tableaux, avec des variantes, comme aux États-Unis. On croit que les démocrates sont des gens qui seraient plus pacifiques que les autres. Non, Kerry aurait fait la même politique que Bush, mais par d'autres moyens.
Madame Clinton a voté le Patriot Act à 2 reprises et elle a même soutenu ouvertement et elle refuse de retirer son soutien à la guerre de Bush en Irak.
Mais tout à fait, voilà, vous avez tout dit. Au sein des démocrates, il y a des faucons ultra et puis au sein des républicains, il y en a qui sont opposés à la guerre. Donc ça fonctionne pas du tout sur un schéma bipolaire comme on peut l'imaginer vu d'ici.
Non, mais c'est ça. C'est juste une des choses qui explique très bien Blanda dans ses papiers, c'est que il y a une espèce de paravent qui consiste à dire mais on instaure la bipolarité partisane, il y aurait la gauche contre la droite, les démocrates contre les républicains, etc. Tout ça est complètement bidon. En réalité, c'est pas du tout une bipolarité, c'est du bipartisme, ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'est deux partis qui défendent exactement la même politique. Mais il faut bien donner aux gens l'impression qu'ils vont choisir. Alors on leur dit, vous avez le choix entre Ségolène et Sarko.
Bonnet blanc et blanc bonnet.
Moi, je préfère Sarko.
Madame Ségolène était, par contre, farouchement pour l'entrée de la Turquie en Europe, ce qui n'était plus le cas en dernière instance de M. Sarkozy. Mais je pense que M. Sarkozy, c'est pour caresser son électorat dans le sens du poil.
Sarkozy, il est plus malin que Ségolène. On s'en est déjà aperçu, d'ailleurs, à plusieurs reprises. Ségolène, elle dit, je suis pour l'entrée de la Turquie. Alors, elle sait très bien qu'elle va heurter les gens, mais elle s'en fout, parce qu'il y a un côté, chez elle, névropathique, mégère, pas apprivoisable, qui dit c'est comme ça, mais ça vous plaît pas, c'est exactement le même prix. Voilà, bon, d'accord, moi je veux bien, et le résultat c'est qu'elle est allée aux fraises. Tandis que Sarkozy, qu'est-ce qu'il dit? Vous voulez pas que la Turquie entre dans l'Europe? Mais il n'y a pas de problème, mais jamais la Turquie n'entrera dans l'Europe, on va passer des accords privilégiés.
Et d'ailleurs, je rappelle qu'il est, il a repris l'idée de Chirac quant à l'Union euro-méditerranée qui intègre dans son cas la Turquie.
Et puis Israël et le Maroc, etc.
Enfin, donc, toujours est-il que là, nous sommes au cœur de l'événement, au cœur de l'actualité, puisque M. Sarkozy était aujourd'hui à Bruxelles. Hier, c'est le président, je crois que c'est un Allemand, le président du Parlement européen de Strasbourg qui était à Paris. Le jour même, nous savons qu'il avait rencontré, il va mettre les bouchées doubles. Or, quand même, cette chose extraordinaire, c'est que 55% des Français ont voté non à cette Europe politique le 29 mai 2005. Les Hollandais ont enchaîné dans la foulée. On a Monsieur Blair a tout de suite retiré le projet de référendum en Angleterre, au Royaume-Uni. Même chose en Pologne. On est à peu près sûr. Quant aux Allemands, dès le départ, ils avaient été muselés puisqu'il n'y a pas de constitution. En Allemagne, il faut le savoir, il n'y a qu'une loi fondamentale, comme du temps de la monarchie, et que cette loi fondamentale écarte totalement la consultation populaire pour les grandes décisions.
L'expérience qu'ils en ont jusqu'à présent, on ne peut pas dire que c'est...
Ceci dit, il y a quand même, personne ne nous en parle, et vous ne le verrez certainement pas dans la presse, mais ça serait bien qu'on le voit dans le libre journal. Il y a un parlementaire allemand qui mène un combat, non pas d'arrière-garde, mais d'avant-garde, qui a déclaré que la ratification du traité par les deux chambres réunies dans une forme de congrès, le congrès à l'allemande, était anticonstitutionnel. Et ça bloque le processus. Donc, officiellement, je vous apprends que la Constitution n'a pas été ratifiée par l'Allemagne, même si elle est annoncée comme l'étant par toutes les instances européennes.
Mais au fond, ce qu'on découvre, c'est que les plus malins, ce sont les dirigeants français qui ont dit « on va faire un référendum ». Voilà, vous avez, c'est comme les quand on était gosse, qu'est-ce que vous voulez faire samedi? Moi, je voudrais aller au cinéma, maman. Moi, je veux aller au parc. Bon, très bien. On reste à la maison, et puis voilà. Comme ça, tout le monde sera content. Et ben là, on leur dit, vous voulez la Turquie? Ah non, non, je veux pas la Turquie. Ben, il y en a qui la veulent. Oui, mais la majorité a voté contre. Bon, d'accord. Eh ben alors, on va faire la Turquie, alors.
On va faire la Turquie. De toute façon, c'est...
C'est extraordinaire,
C'est un secret de polichinelle. Il n'y a pas besoin d'être initié pour savoir qu'il n'a jamais été question de ne pas intégrer la Turquie. Nous a fait plaisir. Chirac nous a annoncé, mais enfin bon, c'est des promesses qui n'engagent que lui. C'est même pas des promesses de Gascon. Sachant qu'il partait, il nous a dit qu'il y aura un référendum pour l'entrée de la Turquie. Il savait qu'il partait un an après. De toute façon, il ne serait plus là. Alors on peut...
Et dans le même discours, ils nous disent, mais de toute façon, c'est irréversible.
Ouais. Oui, mais toujours, on nous a dit ça.
Les conversations sont tellement engagées qu'on ne peut pas revenir.
On nous a dit ça aussi. On nous dit ça à propos de tout, tous les grands faits de société. La peine capitale, l'abandon est irréversible, l'immigration est irréversible. Tout est irréversible. Tout, toujours.
Mais on est d'accord sur le diagnostic. Enfin, on est d'accord. Ça n'a aucune importance qu'on soit d'accord. On comprend bien le diagnostic que pose votre bouquin, Manifeste pour une Europe des peuples.
Mais une reconstruction d'urgence et une mobilisation surtout.
Alors ça c'est les remèdes, mais ils passent par quoi les remèdes?
Alors les remèdes, ils passent, j'ai déjà esquissé au moins deux grandes idées, sortir de l'OTAN ou renégocier. De toute façon, on n'a pas besoin d'être attaché.
Est-ce que c'est possible de sortir?
Pourquoi pas? Là où il y a une volonté, il y a une voie.
Il y en avait un qui l'avait fait, ça s'appelait De Gaulle.
Non, il n'était pas sorti de l'OTAN, il était sorti de la direction intégrée. Ouais. Mais la France pèse encore. Pourquoi ne pas créer un pôle de puissance? De toute façon, on voit bien aujourd'hui, que nous prouve l'Europe d'aujourd'hui, c'est que les intérêts des Polonais ou l'intérêt des Tchèques, les Tchèques vont installer un radar, les Polonais vont installer des rampes de missiles antimissiles, qui sont dirigés contre qui? Contre l'Iran. Mais ça, ce sont des fadaises. D'ailleurs, ce livre, donc, s'attache à dénoncer non pas les fadaises, mais tout l'édifice, toute l'architecture, l'architectonie de mensonges, et de mensonges qui durent depuis 50 ans. Ça fait quand même beaucoup. Mais au-delà, je pense que c'est le projet qui a animé ce livre était un peu unique, c'est-à-dire on a dit non, mais une fois qu'on a dit non, que fait-on? Alors tout le monde, comme je le dis aussi, tout le monde est reparti à ses éternelles divisions, on a entendu dans votre première partie, c'est curieux, les hommes qui pensent dans ce pays ne peuvent pas penser en groupe, penser en meute, penser de façon concertés et de façon synergique, ils pensent chacun de leur côté en tirant sur le voisin. Donc, des propositions, réflexions, les racines du... Quelles sont les racines du mal? Quels sont les remèdes? Que proposons-nous? Et là, nous, par exemple, sur le général Paris, qui est un homme qui vient de la gauche, mais qui est un homme de bonne volonté et qui surtout connaît son métier, propose une architecture de défense européenne. Donc c'est un véritable projet alter-européen. Quand j'ai dit, par exemple, pour l'agriculture, mais c'est valable pour tout, parce que nous sommes fixés, par exemple, sur les banlieues les banlieues, c'est dramatique, mais ça reste pour l'instant encore un problème de police. Mais il y a une chose beaucoup plus grave dans ce pays, c'est la destruction, la dévastation de notre parc industriel, les pertes d'emplois. C'est beaucoup plus grave encore, les ravages de la mondialisation sont beaucoup plus graves encore que les 100 bagnoles qui brûlent toutes les nuits. Parce qu'il y a 100 bagnoles qui brûlent, il y a 30 000 véhicules qui brûlent en temps ordinaire par an en France. Il faut bien le savoir.
Ce qui me semble-t-il mérite d'être dit, c'est que c'est pas de même nature. C'est-à-dire que l'insécurité des banlieues, ce qu'on appelle des quartiers maintenant, on ne dit même plus des banlieues, on dit les jeunes des quartiers, alors on sait très bien ce que c'est que les jeunes des quartiers, bon bref, n'épilogons pas. Donc les jeunes des quartiers, cette insécurité, elle est épiphénoménale. Bon. En revanche, les problèmes de destruction du tissu industriel, ça, c'est pas épiphénoménal, c'est central.
C'est central, c'est structurel.
C'est à ça que sert le système.
C'est structurel.
Et pourquoi il sert à ça le système? Parce qu'un pays qui est un pays pauvre, c'est un pays châtré. Les gens qui ne pensent plus qu'à bouffer, à se nourrir plus exactement, c'est-à-dire, ils n'ont aucun moyen de survie, ils sont menacés par le chômage, par la croissance des prix, l'augmentation, l'inflation. On nous raconte des carabistouilles invraisemblables. Enfin, j'étais hier au marché, on voit des trucs, mais c'est hallucinant. Il n'y a rien qui vaut moins de 1 euro. 1 euro, c'est quand même 7 francs.
Ben, on est passé d'un franc à 1 euro.
Voilà. Donc, les prix ont été multipliés par 7 dans certains cas. L'augmentation moyenne, c'est 40%. Il ne faut pas nous raconter qu'il n'y a pas eu d'inflation. C'est pas vrai. N'importe quelle ménagère, elle le voit.
Même moi, mais la France est pauvre aujourd'hui, voilà. Mais tous les Français n'arrivent plus à terminer à boucler leur fin de mois.
Oui, si vous permettez à l'ancien maire adjoint de Seine-Saint-Denis de parler,
Jean-Pierre Rondeau.
Je suis d'accord tout à fait sur le problème de la délinquance, etc. C'est épiphénoménal. Mais par contre, je peux pas être d'accord avec le problème de la désindustrialisation. C'est pas le plus grave pour moi.
C'est un des aspects.
Je suis dans l'économie, mais la France ruinée demain est ruinée pour une, deux générations. C'est terrible. Mais à la limite,
on peut s'en relever
et les industries, on peut les recréer un jour. Aujourd'hui, la création de Français de papier de façon...
Ah ben tout va de pair, de toute façon.
Oui, mais pour moi, c'est le problème le plus grave, parce que celui-là, il est irréversible.
Mais poussez votre raisonnement plus loin, c'est la dénatalité. Nous sommes devenus des individus libres et jouissants, donc on ne fait plus d'enfants. Enfin, encore que les Françaises fassent un petit effort. Hein, il ne faut pas les en blâmer. Et d'ailleurs, même si elles voulaient en avoir, souvent les appartements sont trop petits, les revenus sont trop étroits, mais la dénatalité... Et alors aujourd'hui, que dit le rapport de l'OCDE concernant la France? Le rapport de l'OCDE nous dit, mais ce que disait déjà un certain rapport des Nations Unies, plus d'immigration, encore plus d'immigration. Bon, personne ne dit pourquoi ne faites-vous pas d'enfants et pourquoi n'y a-t-il pas de politique familiale? Les gens font vous avez parfaitement raison.
Ils n'ont pas intérêt à faire des enfants. Il y avait un exemple qui m'a beaucoup frappé, c'est quand Ségolène Royal a dit il faut permettre aux femmes de travailler en confiant leurs enfants à des gardes qui viendront et dont les salaires seront exonérés des charges et elles seront exonérées d'impôts. Alors, elle dit ça, très bonne idée. Madame Tartampion va aller travailler à l'extérieur et elle va confier ses enfants à Madame Tartemolle qu'elle va payer et Madame Tartemolle ne paiera ni impôts ni charges sur le salaire qu'elle va toucher pour élever les enfants de quelqu'un qui s'en va pour toucher un salaire sur lequel elle va payer des impôts et des charges. Alors à ce moment-là, il faut remplacer ça par le salaire familial, en disant, madame, si vous restez...
C'est une des solutions, bien entendu, c'est une des solutions.
Eh ben non, ça c'est exclu, parce que ça c'est des méthodes anciennes, ça c'est des trucs machistes, on n'a pas le droit de faire
ça. Non, mais il y a un appareil de terrorisme intellectuel, de mensonge permanent. Encore une fois, il faut démonter tout l'édifice du mensonge, et puis pas se laisser piéger.
Je crois que c'est l'intérêt d'un livre comme ça, c'est qu'il se livre à cette tâche parfaitement salutaire.
Qui n'a été faite par personne, d'ailleurs.
Bien sûr, parce que...
Comment reconstruire Et on aurait aimé que les souverainistes s'y soient livrés.
Attendez, les souverainistes, il ne faut quand même pas blaguer. C'est une rigolade, les souverainistes. C'est une rigolade.
Je vous laisse la responsabilité de ce propos, Serge. Voilà,
tout le monde sait ce que je pense. Moi, je suis nationaliste, point à la ligne.
Si on aime véritablement ce pays, il faut repousser nos...
Si c'est pour dire on est d'accord avec tout, l'immigration c'est très bien, mais il faut que la France garde sa souveraineté. Mais comment on peut garder la souveraineté dans un pays où 30 ou 40% de la population est constituée par des étrangers
hostiles.
On leur donne le droit de vote.
Pas tous hostiles, mais il est plus facile de toucher, d'être subventionné, d'ailleurs, comme certains agriculteurs, d'ailleurs. Nous sommes dans un système de clientélisme, comme à la fin de Rome.
C'est le même processus.
De clientélisme, j'ai aussi un clientélisme politique, mais sauf qu'à un moment donné, ça marche ou ça ne marche pas.
Alors, la question que se pose, je suppose, les deux auditeurs qui sont restés fidèles.
Il y a quelques questions d'auditeurs sur le sujet, là.
On se suicide tout de suite ou on attend quelques jours?
Non, on se bat. On se bat comme à Cameron. On a encore des cartouches à tirer. On a des cartouches à tirer. Ce livre est une cartouche. Si nos auditeurs veulent nous aider, ils l'achèteront. Et ils trouveront à boire et à manger, parce qu'il y a des textes plus difficiles, il y a des textes de juristes, mais il y a aussi des textes de bon sens. J'ai moi-même rédigé la dernière partie qui s'appelle Bréviaire de l'Europe, qui est une sorte de vaste panorama de l'Europe qu'on est en train de nous construire.
Ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est qu'il montre bien que ce n'est pas la pensée unique du tout. C'est-à-dire, il y a...
C'est très diversifié, c'est encore une fois...
Vous dites qu'il y a le général Parisi, il y a le général Gallois qui a ses positions à lui.
Alors, qui sont les siennes.
Quant à savoir comment on va arriver à les mettre d'accord tous les deux, ça...
Non, mais Gallois est un témoin inappréciable, inestimable, parce qu'il a assisté à cette naissance de l'Europe, et appartenant lui-même au cabinet, il a entendu ce qui s'y disait à l'époque. Et le projet était clair, donc c'est un témoin direct, c'est un témoin, encore une fois, tout à fait inestimable.
Et il y a Pierre Hilard qui, je le répète, est... probablement un des spécialistes de la géopolitique les plus pertinents, les plus pénétrants et les plus audacieux actuellement.
Alors Serge, ce qui est intéressant, c'est qu'Hilard se méfie à juste titre de l'Allemagne. L'Allemagne qui tire beaucoup mieux son épingle du jeu, parce que c'est déjà un État... en soi fédéral, avec les Länder, qui a déjà une structure, mais surtout, c'est que les Allemands sont beaucoup plus dynamiques, voire agressifs sur les marchés internationaux, et réussissent là où les Français, qui sont justement, qui ont le tempérament latin, qui n'ont pas la discipline sociale et la discipline économique, se cassent la gueule. Et c'est l'Allemagne qui est en train, aujourd'hui, encore une fois, c'est quand même tout à fait symbolique, que le premier déplacement, le jour même de la passation de pouvoir, a été pour Berlin. C'est aujourd'hui Berlin, le centre de l'Europe.
Le problème avec Hilard, moi j'ai reçu plusieurs fois là dans cette émission, c'est que... son discours ne passe pas toujours très bien parce que les auditeurs bloquent dès le départ sur le fait « Ah, mais vous êtes anti-Germanie, vous détestez les Allemands et tout. »
Il l'est parfois un peu beaucoup.
Oui, mais c'est pas le problème. Lui, ce qu'il dit, les Allemands, ils font leur boulot. Ils font leur boulot.
Ben oui.
Faisons la même chose.
C'est ce que je dis, mais il y a une discipline le peuple allemand qui n'existe plus. Qui a existé en France, mais qui n'existe plus en France aujourd'hui.
Les Italiens ou les Espagnols. Mais le fait de dire « Ils sont dangereux pour nous », ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Je veux dire, traverser une autoroute en pleine nuit à pied, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas.
Mais Serge, ils sont dangereux pour nous. Ils sont dangereux pour nous de la même façon que les musulmans sont également dangereux pour nous. Ils sont dangereux pour nous parce que nous nous laissons aller, parce que nous avons les 35 heures, parce que l'on aime partir en vacances. Et vous savez que les 35 heures, on n'a pas d'activité culturelle beaucoup plus intense. On regarde 5 heures de plus par semaine la télévision.
Mais c'est fait pour ça.
L'islam n'est pas en soi un danger. L'islam est un danger parce que nous sommes déspiritualisés. L'islam occupe la place qui a été laissée vacante. Eh bien, l'Allemagne occupe un espace géo-économique que nous sommes incapables de conquérir.
Un message d'auditeur
Les messages d'auditeur.
Il y en a intéressant parce qu'il fait partie à la fois de la conversation et de l'actualité. C'est la photo officielle du président de la République. Pour la première fois, un drapeau français accolé à un drapeau européen. Jamais.
On en a parlé tout à l'heure dans les. Gérard Marin en a parlé dans son émission et la réponse qui était apportée montrait que son invité n'avait pas vu cette photo. Il parlait d'une autre photo qui était prise. Mais c'est la première fois que la photo officielle du président de la République fait figurer le drapeau européen. Alors on pourrait s'intéresser à la force symbolique de cette photo parce que le drapeau européen couvre légèrement le drapeau français.
Bah tiens.
Oui, mais la bibliothèque laisse voir une superbe reliure aux armes des Condés. Ah oui. Vous savez, les bouquins qu'on met comme ça pour...
C'est parce qu'il a été le patron de la police, pour
oui,
rappeler
voilà,
ça.
Voilà, d'accord. Mais je veux dire, c'est... On va savoir si on est en République ou... Si vous prenez une loupe et que vous regardez la photo, on voit ça dans le journal, vous savez, les bouquins, on, ouais, on les met à l'envers pour qu'on voit
Je connais même un type qui fait des émissions sur le net... pour remplacer les émissions de radio qu'il fait pas, et lui il a collé du vénilia, vous savez, les
vénilia qui représente des bouquins,
oui, tout ça, oui. Comme alors, décor de ces
un
émissions.
Un auditeur qui vous reproche d'employer trop le mot Europe au lieu d'Union européenne.
Et ben justement l'Union c'était le mot qui désignait la fédération américaine. C'est pas par hasard si l'Union s'appelle. Mais on joue sur cet auditeur a parfaitement raison. On joue sur l'ambiguïté pour nous faire croire que l'Union c'est l'Europe. Alors, c'est véritablement une union qui doit prendre la forme des États-Unis. Nous l'avons souligné tout à l'heure avec cette bipolarisation politique qu'on est en train... tous les partis intermédiaires ont été laminés. Donc, on a une américanisation des mœurs, une américanisation de l'économie, avec une poignée de super-riches au sommet et des gens de plus en plus pauvres et la disparition des classes moyennes. Et effectivement, nous entrons dans une union. Mais on joue sur l'ambiguïté, sur l'équivoque du mot Europe.
Alors, pas du tout d'accord avec vous. Je suis pour un retrait total de l'Europe, ce qui n'empêcherait pas les échanges avec les autres pays. L'Europe est un allié.
Oui, non, mais ça, Serge l'a bien dit, c'est tout à fait utopique. C'est sympathique, mais c'est utopique.
Si
on le regrette, on est le premier à le regretter.
On a pensé de beaucoup, je pense. Si on est contre l'Europe, on aura la guerre.
Voilà, on pourra faire. De toute façon, on va l'avoir, là. Si vous voulez que je vous en dise un mot, on va l'avoir. Monsieur Kouchner, c'est l'homme de la guerre, il est là pour la faire. Je rappelle que
il est là pour la faire faire.
Pour la faire faire, oui, pas par lui, évidemment. Je rappelle que les quatre principaux candidats, je crois qu'il y avait, pour commencer par la plus petite, Madame Buffet, mais il y a eu Monsieur Bayrou, Madame Royal et Monsieur Sarkozy, qui ont co-signé l'appel du collectif Urgence Darfour, c'était un peu avant le premier tour, qui s'engageait à prendre des mesures musclées, autant dire non seulement des mesures de rétorsion diplomatique et autres, ou économiques, mais musclées, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire la guerre contre le Soudan. En fait, ce qu'on nous dit pas, c'est qu'au Soudan, il y a du pétrole, il y a de l'uranium, il y a les oléoducs chinois qui vont venir du Tchad, puisque les Chinois sont au Tchad, et donc c'est une zone éminemment stratégique. Et ce n'est pas du tout ce qu'on nous raconte. Il y a deux ou trois autres... Pardon ?
C'est pour ça qu'on ne fera jamais la guerre. Parce que si on fait la guerre au Soudan, les Chinois vont dire attention...
Ah oh, non, on n'en est pas là. Ben, regardez ce qu'avait dit Mme Royal de façon tout à fait inconsidérée, qu'il fallait se retirer des Jeux Olympiques justement à cause de la question du Darfour. Il est curieux que M. Kouchner, qui nous dit que l'urgence aujourd'hui c'est le Darfour, c'est sa première déclaration, ou que d'ailleurs c'est Mme Bettencourt. Nous avons beaucoup de sympathie pour Mme Bettencourt, mais est-ce le premier sujet d'urgence pour la diplomatie française. Ça resterait à prouver. Monsieur Kouchner, encore une fois, s'aligne sur un agenda, pour parler franglais, un agenda qui n'est pas le nôtre. Est-ce que nos intérêts sont d'aller affronter les Chinois au Darfour ? Je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas, mais nous risquons d'y aller.
Il faut poser la question au chef d'état-major, il vous donnera une réponse.
Oui. Parce que ce qu'on ne dit pas, on parle d'une force mixte au Darfour.
Qu'est-ce qui fabrique les lance-pierres?
Les Chinois fournissent des armes aux Soudanais, il faut le savoir, mais là je termine là-dessus, ouais. Parce que c'est un autre sujet. On propose une force Nations Unies, Union Africaine, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la logistique est déjà assurée par l'OTAN. Donc l'OTAN, c'est-à-dire l'Europe, est déjà au Darfour. On assure pour l'instant que de la logistique. Mais c'est déjà pas mal.
Comme les Américains au Vietnam.
Voilà, ça commence par la logistique. On achemine les troupes, les matériels, etc. Et puis après, après une fois que l'engrenage est engrené, si je puis dire, eh bien, on y va. Donc Monsieur Kouchner n'est pas le doux humaniste qu'on nous présente.
Oui, ça, je crois pas,
c'est l'homme qui a aussi souhaité que la France s'engageât dans l'affaire irakienne. Et je dois dire, si Monsieur Kouchner veut se mobiliser parce qu'il a un grand cœur et une grande âme, pourquoi ne se mobilise-t-il pas pour le retrait des troupes américaines d'Irak, pour laisser ce malheureux pays qui vit une tragédie apocalyptique? Hein, ça faudrait quand même penser qu'il y a quand même une tragédie qui est là et qui, à l'origine, n'a pas de justification.
Mais elle était programmée il y a 25 ans par le fameux rapport de l'état-major israélien qui expliquait comment ils allaient faire exploser les nations fortes du Proche-Orient.
Faire sauter tous les verrous de souveraineté. Voilà.
D'autres questions, d'autres
réflexions. Pourquoi l'Angleterre, comme l'Irlande, n'accepte-t-elle pas la libre circulation des nouveaux Européens d'Europe centrale ?
Ah oui, il y a des restrictions pour les Roumains, il y a des délais, etc. Bah parce qu'ils se méfient. La réponse est déjà incluse dans la question. La France aussi, je crois, avait mis quelques garde-fous, mais enfin, ils ont dû rapidement sauter. L'Espagne aussi doit se méfier de l'arrivée massive des Roumains, des Bulgares.
Qui répond à Serge, messieurs, vous stigmatisez l'Allemagne comme toujours, mais ça n'est pas elle qui s'est opposée à ce que l'on fasse référence aux racines chrétiennes.
Je viens de dire que non, que justement
Voilà. Et la non-ratification de l'Allemagne a été déjà évoquée par Paul-Marie Couteau sur Radio Courtois.
Moi qui le lui avais dit.
On parlera.
Il y a une question que n'a pas posé les auditeurs qui est importante parce qu'on a parlé du livre, mais on n'a pas donné son titre. Il s'appelle Manifeste pour une Europe des peuples.
Et votre nom
Jean-Michel Vernochet, c'est un nom bourguignon, VERNOCHE. C'est édité aux éditions du Rouvre qui sont à Paris. On peut trouver, vous tapez à internet éditions du Rouvre, vous allez simplement chez votre libraire. Vous le trouvez également dans les bonnes librairies, Duquesne, Petit Pont, La Licorne Bleue, Primatis et j'en passe, et des meilleurs.
Il y a une très belle illustration de couverture qui montre l'enlèvement d'Europe. Et à ce propos, j'avais publié dans Présent, il y a fort longtemps, je me cite parce que j'étais assez fier de ce travail, une réflexion sur la charge symbolique de la mythologie d'Europe. C'est extraordinaire parce que ça contient absolument tout ce qu'on voit maintenant, c'est contenu dans le mythe de l'enlèvement d'Europe et de la suite. Les fils d'Europe sont juges aux enfers.
Oui. Mais à propos de la non-ratification et de Paul-Marie Couteau, qui je connais bien puisque j'ai travaillé autrefois avec lui au Commissariat Général de la Langue Française, Paul-Marie Couteau aurait dû peut-être se lever à la tribune du Parlement européen où il est un digne représentant et justement attirer l'attention de ses collègues parlementaires sur cette affaire de non-ratification par l'Allemagne.
On va l'entendre.
Il va nous succéder sur cette antenne, n'est-ce pas, Franck? Paul-Marie Couteau va nous succéder sur cette antenne, donc je suis sûr qu'il nous écoute.
J'espère.
Tant mieux. Il va nous répondre vertement.
Moi, je voudrais qu'il me réponde.
Il ne nous répondra pas vertement parce qu'il est d'accord sur le fond.
Je voudrais qu'il réponde à une autre question qui n'a rien à voir avec notre débat aujourd'hui. Il vient de lancer un appel aux législatives à ne pas voter pour les candidats UMP, mais à voter pour les candidats souverainistes, filiéristes ou.
Et qui ont appelé eux-mêmes à voter Sarkozy. C'est un peu le. On se mord la queue, là. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Ça nécessite une souplesse qui n'est plus de mon âge. Bien, tiens, on va parler de l'âge tout de suite avec le docteur Dalle.
Je vais peut-être vous quitter.
Oui, merci.
Non, mais je vous remercie à tous nos amis.
Parler de ce bouquin, je recommande la lecture parce que, d'abord, moi j'aime bien quand c'est court.
Alors, oui, mais là, il y a à boire et à manger.
Mais il y a beaucoup d'intervenants.
On peut choisir. Il y a 17 auteurs plus votre serviteur qui écrit et qui a écrit cette espèce de grand panorama qui s'intitule Bréviaire de l'Europe et qui donne une sorte d'inventaire. C'est une fresque sur tout ce que l'Europe ne doit pas être et sur tout ce qu'elle devrait être. Je traite notamment des questions d'environnement qui deviennent cruciales. On l'a vu avec le syndrome de déficit respiratoire. Je m'adresse aux médecins. Mais avec la grippe aviaire, avec la maladie de la vache folle, là, il y a une coordination. Ouais. Je dis également que les fleuves n'ont pas de frontières. La pollution aérienne n'a pas de frontières. L'immense nuage de pollution qui couvre l'Asie, voit de satellite, est déjà arrivé sur l'Europe.
Je suis désolé de vous rappeler quand même que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté.
Oui, à la ligne bleue des Vosges.
À la ligne bleue des Vosges. Et je vous invite à venir dans, disons, 5 ans pour parler de votre prochain livre qui s'appellera Manifeste pour saluer la renaissance de l'Occident chrétien.
Pourquoi pas, mais on n'attendra peut-être pas 5 ans. Et puis je pense que d'ici quelques semaines, on va peut-être se retrouver parce que l'Europe va venir tellement rapidement sur le devant de la scène et nous allons être pris dans une sorte de maelstrom. Encore une fois, les Français vont découvrir que de ce point de vue-là, ils ont été cocus. De ce point de vue-là,
ça, peut-être.
Ne soyez pas méchants avec les Français.
Cocu d'abord.
L'exemple vient de haut. Vous écoutez Radio Courtoisie.
Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci à Serge et à vous tous. Et
pour ceux qui s'intéressent aux questions géostratégiques, merci Jean-Michel Vernochet. Je signale la parution du numéro de géostratégique numéro 16, qui me paraît fort intéressant. Je l'ai pas encore lu, mais c'est sur le rôle des ONG. Alors, je vais garder cet exemplaire.
Ni d'espions.
Voilà, cet exemplaire pour mon ami Michel Blanza, qui s'intéresse particulièrement aux ONG, ni d'espions. On vous en reparlera certainement. Je signale la parution d'un autre livre qui peut intéresser, notre excellent camarade Jean-Pierre Rondeau, qui s'appelle « Allô Alger, ici la résistance ».
Qui est de qui de...
Qui est de Claude Plosséniac. Voilà. Comme j'en ai reçu deux exemplaires, je vous le donne.
C'est très sympa, merci.
J'aurais pu le donner à Goffman, mais...
Aux éditions de...
Quelles éditions?
Ah, pardon. Télès, ouais.
Je le ferai venir un soir, monsieur Plosséniac. Voilà, et puis je reçois maintenant le docteur Claude Dalle. Ça, c'est pour nos auditeurs qui ne sont pas encore définitivement endormis. Le guide pratique de la médecine anti-âge. Alors, docteur Dalle, moi, quand on me parle de médecine anti-âge, j'aurais tendance à croire qu'on veut m'expliquer que la vieillesse est une maladie.
Non, c'est pas une maladie, c'est un début de naufrage.
Et comme disait De Gaulle.
Voilà. Et on peut peut-être se sauver du naufrage ou retarder le naufrage.
Embêtant, j'ai déjà de l'eau jusqu'aux chevilles.
Il aurait dû nous amener un bouquin chacun, là.
Alors, on peut éponger. Alors, on peut essayer d'éponger.
Donc, les traitements hormonaux sans risque, alors là, vous prenez le taureau par les cornes, si j'ose dire, la nutrition de la longévité, les super antioxydants, parce qu'avant, on savait même pas qu'il y avait des oxydants, enfin, à part l'oxydant chrétien dont je parlais tout à l'heure, on nous a expliqué qu'il y avait des antioxydants, et maintenant on nous explique qu'il y a des super antioxydants.
Ouais.
On en parlait rapidement.
Ouais.
On parlera des questions. Quelle heure il est? 8h30. On peut peut-être survoler la... Enfin, dire que vous en parlez dans le livre, hein, sexualité. Alors, on parle aussi du sommeil, hein. Comment?
C'est intéressant.
Ça vous intéresse.
Quand on s'en occupe plus, c'est intéressant de savoir comment ça marche.
Comme dit mon curé, c'est pas parce qu'on va pas manger qu'on peut pas regarder le menu.
Oui.
Vous fréquentez des drôles de curés, oui. Sommeil, équilibre émotionnel. Énergie, comment les optimiser? C'est paru chez Thierry Soucard, édition. Voilà, alors j'ai déjà, non pas tout dit, mais dit l'essentiel, et ça vaut 20€. Et vous pouvez visiter le site de Thierry Soucard, qui est l'éditeur, Thierry comme le prénom, Soucard, S-O-U-2-C-A-R, tout ça en un seul mot, thierrysoucard.com. Voilà, si vous savez vous servir d'un ordinateur et d'Internet.
Vous n'avez pas peine de regarder.
Non, parce que vous ne savez pas. Je m'étonne même qu'ils ne soient pas venus, qu'ils ne viennent pas à l'émission habillés avec une peau de bête et une massue, et équipés d'une massue.
Moi, je suis mouillé 15 ans, je suis un porteur.
Ah oui. Alors, donc, la vieillesse n'est pas une maladie, mais c'est un naufrage, vous nous dites. Vous nous le confirmez.
Ça peut être un naufrage, et on a maintenant des moyens thérapeutiques, des moyens de mode de vie. Pour essayer de s'améliorer.
Alors, deux questions. La médecine est préventive et curative.
Ouais, là, c'est surtout de la médecine préventive.
Alors, donc, pour moi, c'est trop tard.
C'est jamais trop tard. Mais quand vous avez déjà les maladies, déjà les affections, il y a automatiquement des dégâts qui sont importants. Donc, on ne peut pas pallier à tout et on va simplement colmater. Alors que si on fait de la prévention tôt et de la prévention ciblée...
C'est-à-dire à quel âge il faut commencer? À la naissance.
C'est ce qu'on fera plus tard. Je pense que progressivement, on le fera à la naissance. Effectivement.
Sans Serge, il vous reste la magie.
Avec le docteur, comment vous dites?
Avec le docteur Maboul.
D'accord. Non, parce qu'il me reproche, comme je reçois des médecins un peu...
Pas spéciaux.
Parallèles. Alors, il dit que je reçois des docteurs Maboul. C'est gentil, merci.
Ça ne saurait vous concerner, docteur.
Bien sûr, évidemment, j'avais compris.
Docteur, ouais. C'est écrit sur le livre. Docteur, Claude Dalle. Alors, cette maladie, elle se manifeste comment?
C'est
maladie. Essentiellement.
Les maladies se manifestent... Là, je voulais dire, le vieillissement.
Oui,
ça se manifeste, les gens consultent pour des baisses d'énergie, des baisses de morale, des baisses de mémoire, ce que tout le monde connaît avec l'âge, quoi. Des douleurs qui apparaissent à droite à gauche, etc. Une baisse de sexualité, un sommeil qui est perturbé, etc. Il y a mille motifs.
Vous connaissez l'histoire naturellement des... J'ai raconté 10 fois, mais je ne sais pas, la vieille dame, des 3 vieilles dames qui bavardent et qui disent, qui se plaignent de perdre la mémoire. Alors la première dit, moi j'ai des difficultés avec la mémoire, j'oublie beaucoup. La deuxième dit, oui, moi aussi, mais c'est l'âge. La troisième, en tapant sur la table, dit, moi, ma mémoire, entrez. Voilà. Bien, alors, donc, quand on commence à perdre... à perdre la mémoire et qu'on commence à avoir mal partout, c'est-à-dire vers 50 ans. Alors, en général, c'est, on dit quand à
50 ans, c'est un cap. Chez
à 50 ans, quand on se réveille et qu'on a mal nulle part, c'est qu'on est mort.
Tout à fait.
Bon,
voilà. Un bon dit-on.
Donc là, donc je sais que je suis. Hein. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'a surpris dans votre livre, c'est que vous parlez des traitements hormonaux sans risque. Or, après nous avoir vendu les traitements hormonaux pendant des années, on nous a dit c'est la panacée. Le premier qui dit universel prend une claque. Hein. Bon, c'est bien. Donc c'est la panacée. D'un seul coup, on nous dit attention, danger, c'est dangereux les hormones. Ouais,
c'est dangereux.
Alors, les c'est dangereux hormones, ou pas dangereux?
Non, ça dépend ce qu'on prend, ça dépend comment on les prend.
Et vous dites par exemple la DHEA, on nous a dit formidable la DHEA, après on nous a dit attention, terrible, la mélatonine.
C'est à la fois formidable et à la fois dangereux si on si c'est mal prescrit, si c'est surdosé, si c'est donné chez des personnes qui ont par exemple une femme qui a des antécédents de dans sa famille de cancer du sein, la DHEA, ça peut être un produit très dangereux. D'accord. Ça dépend comment c'est pris, comment c'est prescrit. Voilà.
Et la mélatonine, c'est ça qui fait des noirs, non? Non, c'est la mélanine, c'est autre chose.
Oui, la mélatonine, c'est ce qui fait dormir, c'est l'hormone du sommeil.
C'est l'hormone la même chose.
Dont les nourrissons sont pleins, c'est pour ça qu'ils dorment très décontractés et longtemps. Voilà. Plus on vieillit, moins on en a. C'est un antioxydant majeur. Alors vous parlez des antioxydants, bah, c'en est un. C'est un des antioxydants naturels qu'on a majeur dans le cerveau. Et c'est présent chez les plantes, chez tous les animaux, chez tous les êtres humains.
Les plantes dorment?
Les plantes, non. C'est parce que c'est une molécule qui protège des méfaits du soleil, etc.
Y en a-t-il dans la papaye?
Probablement, sûr.
La papaye...
Faire fermenter ou pas fermenter?
La papaye papale.
Bon, en tout cas, ça marche très bien, regardez.
Ah oui, effectivement, vous êtes exemplaire. On vous entend pas, les Francs, ils commencent à
c'est
vraiment...
pas grave.
À s'énerver, il va vous frapper aussi.
Je demandais au médecin si la papaye entrait dans cette... dans cette catégorie d'antioxydants, voilà. Il a dit oui, alors, mais d'une façon rigolote.
Comment peut-on savoir si on a avantage à prendre telle ou telle hormone? Comment peut-on savoir quelle dose il faut prendre, quel rythme? Est-ce qu'il y a des spécialistes de il y a vous, bon, évidemment, puisque vous publiez un livre.
Il y a des spécialistes un peu partout dans le monde. Il y a des gens qui s'intéressent à cette médecine un peu partout dans le monde. On peut le savoir parce que les patients qui viennent consulter, par exemple, si ils ont un trouble de la mémoire, il y a les hormones qui correspondent aux baisses de la mémoire. Quand vous avez une baisse en prénénolone ou en testostérone chez l'homme, automatiquement, votre mémoire va commencer à s'altérer. Donc, par des dosages hormonaux, par un examen clinique correct, on peut déjà trouver pas mal de déficiences. Et par des dosages hormonaux, on arrive à affiner le diagnostic, donc à donner un traitement.
Mais si mon ami et maître a pensé, le docteur Plantet était là, il vous dirait, mais je pense qu'il vous dirait, mais c'est bon, les hormones ne sont que les palliatifs de certaines manifestations extérieures d'une maladie qui a forcément son origine avant. C'est-à-dire, pourquoi on a besoin d'hormones? On voit bien que les hormones peuvent soigner ou peuvent pallier certains troubles, mais ça ne dit pas pourquoi on a ces troubles.
Non, les causes...
Qu'est-ce qui vous arrive? Ils sont fous.
Il y a un message vachement important qui arrive, Serge. Docteur, on m'a prescrit du Viagra en pommade. Alors, tout le monde rigole, sauf
docteur,
les...
concernant la sexualité, on m'a prescrit du Viagra en pommade et depuis j'ai les mains toutes raides. Quand franchement,
vous écoutez Radio Courtoisie.
Nos auditeurs sont passés.
La radio nationale et catholique.
On essaye de faire une radio sérieuse et tout, mais vraiment.
C'est vraiment terrible.
Non mais bon. Alors, pour revenir à ma question, revenons à ma question si vous voulez bien. Avant de prendre les hormones, il faut identifier peut-être
les causes
profondes des...
Alors, il y a des causes, il y a tout un tas de causes. Il y a les causes génétiques, il y a des causes qui sont inhérentes au vieillissement. On a une horloge biologique dans notre corps, située dans notre cerveau, qui effectivement se dérègle en vieillissant et qui amène des baisses hormonales, dont la mélatonine par exemple, qui est une hormone qui se déclenche quand elle commence à baisser, vous avez la puberté. Et à la deuxième baisse de cette hormone, ça correspond à peu près à l'âge de 40 ans, où la fécondité chez les femmes s'arrête. Donc c'est une hormone qui est rythmée par la vie biologique. Elle vous déclenche la puberté le moment où elle vous dit « vous pouvez vous reproduire », et quand elle s'arrête, ça veut dire que le vieillissement peut vraiment commencer, vous ne servez plus à rien, votre reproduction est terminée. Voilà. Donc c'est une hormone qu'on peut évidemment rattraper.
Est-ce qu'il n'y a pas un côté... sorcellerie là-dedans.
Est-ce que c'est eugénique,
c'est... Non, pas eugénique, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est une façon de s'opposer au processus naturel qui, est le, qui va de la naissance à la mort en passant par le vieillissement.
Toi, il y en a sorcier
Presque. Mais l'homme a toujours cherché à repousser la mort. Hein, il a passé sa vie à repousser la mort.
Parce que c'est-à-dire qu'on l'apprend, c'est une perspective qu'on prend mal.
Oui. Voilà, c'est ça. On appréhende tout ça et on a toujours cherché à repousser, à avoir une jeunesse prolongée, à avoir des capacités physiques et mentales améliorées.
Moi, je pense
et
à la mort comme...
on a inventé les antibiotiques, l'hygiène, etc. pour ça.
Comme des grandes vacances. Et ce qui me fait peur, c'est pas les vacances qui m'effraient, c'est le fait d'être obligé de prendre un train dont je suis pas sûr qu'il est en très bon état. Vous voyez, c'est le voyage qui me fait peur. La destination, je crains rien. Mais le voyage, j'ai peur qu'il soit pas très confortable. C'est
et
ça.
Vous êtes garé en route.
Hein? Oui, en plus.
Vous devez être affolé par la suppression des limbes. Vous devriez m'écouter, Serge, parce que je vous pose une question à la fois médicale et théologique fondamentale. Vous savez que seul le canard enchaîné s'en est indigné, d'ailleurs. Il faut les comprendre, parce qu'il voudrait savoir avec qui il discute. Benoît XVI a annoncé la disparition des limbes.
Mais c'était pas un acte de foi, les limbes. C'était pas de foi, les limbes. C'est une possibilité qui a été envisagée pour expliquer le fonctionnement, si j'ose dire, de l'au-delà. Mais il n'y a pas un dogme des limbes.
Mais c'est pas là que vous comptiez aller?
Non, j'espère mieux. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de la médecine anti-âge. Alors, bon, mais les hormones, c'est une chose, mais je vois bien que c'est pas central dans votre...
C'est pas la panacée, non?
C'est pas la panacée, même pas universelle.
Non.
Vous nous dites, il y a quand même une nutrition, une façon de se nourrir, qui assure la longévité, mais c'est-à-dire la longévité en meilleure santé possible, pas la longévité grabataire.
Non, une longévité qui prolonge justement les hormones.
Quels sont les produits qu'il faut s'interdire ou se limiter?
Le premier danger, c'est les sucres. On est envahi de sucre dans notre nutrition, dans tous les supermarchés.
Mais pourquoi c'est devenu dangereux? C'est moi ce que je comprends pas beaucoup dans la médecine actuelle, c'est que d'un seul coup on nous dit, ça fait maintenant 5000 ans ou 10000 ans que les hommes bouffent du sucre, ils en sont pas morts, ils ont mangé des milliards de tonnes de miel.
On avait 30 ans d'espérance de vie, certes.
Mais c'est pas vrai.
Ça va bien.
Ils mangeaient moins de sucre, ils mangeaient beaucoup moins en quantité et ils mangeaient des sucres de bien meilleure qualité. On mange des sucres très rapides et en très grande quantité. Et ça, c'est toxique.
Donc il faut des sucres lents.
Il faut les sucres lents en petite quantité.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sucre lent par rapport à un sucre rapide?
Les nouillasses.
Par exemple, non. Mais c'est-à-dire que
les nouilles.
Si vous prenez, par exemple, les lentilles, bon, c'est un aliment que les gens mangent très peu maintenant, ça a un index glycémique, une pénétration du sucre dans le corps qui est de 15, par rapport au sucre normal qui est de 100.
Alors, c'est un sucre très lent. Ça veut dire que ça rentre à 15 à l'heure
Il rentre à 15 à l'heure dans votre corps. Vous prenez une baguette, ça rentre à 90 à l'heure. Voilà. Donc, vous prenez du sucre dans votre café, c'est du 100%. C'est 100 à l'heure.
Ouais, mais les Égyptiens bouffaient beaucoup de lentilles, ça les a pas empêchés de mourir.
Non, évidemment, mais ils avaient des conditions de vie qui étaient très précaires.
Mais donc, quand on parle de sucre, là, vous parlez pas d'aliments sucrés, parce que les lentilles, c'est pas sucré.
Non, il y a des sucres dans tous les aliments. Il y a les sucres cachés dans le pain, par exemple, dans les pâtes.
Il y a toutes sortes de sucres, d'ailleurs.
Oui, il y a plein de sortes de sucres. Il y a du glucose, il y a du fructose, etc.
C'est vrai que le diabétique, il ne peut plus rien manger. Il y a du sucre dans les pommes de terre, il y en a dans tout.
Il y en a partout, c'est ça. Ce qui est important, c'est la charge glycémique. C'est l'index des sucres, c'est ça. Alors, on peut manger les sucres. Vous mangez des pâtes al dente, elles ont un index glycémique de 25 ou 27. Vous les mangez très cuites, elles ont un index glycémique de 60. Donc, vous changez complètement de catégorie avec le même aliment. Donc il y a une manière de manger qui est plutôt frugale. On sait maintenant ce qu'il faut faire. Un des peuples connus les plus vieux au monde, c'est les Japonais d'Okinawa. Bon, leur alimentation, c'est très simple. Il n'y a pas de sucre. Il y a très peu de sucre. Il y a beaucoup de légumes. Il y a beaucoup de variétés de légumes et de fruits. Il y a peu de protéines. Les protéines sont à base de poissons. Ce sont des poissons gras, souvent, donc riches en oméga 3, etc. C'est pas très difficile. Et tous les peuples vieux sur la Terre mangent tous à peu près pareil.
Le régime crétois.
Le régime crétois. Mais c'est un régime qui est beaucoup moins bon que le régime d'Okinawa, en fait.
Mais les crétois, ils boivent du sang de bébé, c'est pour ça qu'ils vivent vieux.
Les crétois, ils ont déjà un régime avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, du poisson et peu de viande. Ils mangent de la viande une fois par semaine et très peu de fromage.
Et on se fait renverser par l'autobus, on s'attend du restaurant.
Voilà. C'est la mort programmée, ça.
Alors, C'est le pessimiste. Oui, certainement une question plus intéressante que les
autres. Que faut-il penser du traitement de l'arthrose et des maladies dégénératives par les champs magnétiques pulsés? Je vous pose les trois.
Je ne sais pas ce que valent les champs magnétiques pulsés, je ne peux pas vous répondre là-dessus.
L'horloge ne marche pas, c'est l'horloge qu'il faut traiter, et modifier une hormone dans une chaîne de réaction, c'est totalement inutile. Mais ça, c'est le docteur Planté.
Ah, voilà, j'étais sûr que
j'avais envie. Mais on peut modifier l'horloge, je pense qu'il le sait. On peut chercher à régler l'horloge uniquement par la mélatonine déjà.
Pourriez-vous nous indiquer un traitement pour les épaules qui ont des douleurs persistantes, tout en sachant que j'ai 70 ans? Non, ben, faut-il aller consulter un spécialiste?
Ou Ségolène qui va vous témoigner de la compassion.
Non, mais attendez, on rigole, mais le problème du vieillissement, c'est ça, c'est que...
Serge, vous inquiétez pas, on a mal aussi.
Oui, mais vous...
Quel âge avez-vous, docteur, d'ailleurs?
J'ai 55.
Ah, il est bien.
Il est mieux que sur la photo, il a dû faire exactement après.
Il n'a pas un poil blanc, hein.
Avant, après.
Ah ouais, c'est ça. Allez, non, bravo.
Avant et après.
Donc vous êtes une publicité vivante pour votre, bouquin. Mais le fait que, effectivement, un des symptômes du vieillissement, c'est qu'on a mal partout, tout le temps. On a mal aux dents, on a mal aux bras, on a mal aux articulations, on a mal aux... Bon. Alors, est-ce que par les traitements que vous... Enfin, par les solutions que vous proposez, les solutions naturelles, je dirais, en modifiant l'alimentation, en modifiant le rythme de vie, est-ce qu'on peut...
Rajeunir.
Régler ces problèmes.
On ne peut pas les effacer, on peut beaucoup les diminuer. Et ça dépend à quel stade vous prenez les gens. Quelqu'un qui arrive avec une arthrose très dégénérative, bon, on ne fera pas grand-chose.
Vous êtes dur pour notre auditeur.
Quelqu'un qui commence à avoir de l'arthrose, si on arrive à trouver certaines des causes, oui, on peut l'améliorer, bien sûr.
Alors, votre livre, il est plein de petits tests. C'est très drôle parce que, par exemple, êtes-vous candidat à un bilan de DHEA? Alors, je vous lis les questions. Vous avez moins de poils sous les bras.
Bon. C'est un signe majeur de manque de DHEA.
Le regard plus anxieux. Vous, moi je ne sais pas pour les poils sous le bras,
on n'a pas vu, mais
une tolérance moindre au bruit, ah ça, bienvenue au club, oui. Moins de poils sur, alors là non, je ne vais pas plus loin, des douleurs articulaires plus souvent, une résistance moindre au stress. Et alors à partir de là, vous marquez soit 0, soit 1, soit 2, selon l'importance du truc, et alors on vous dit à la fin, si vous avez de 0 à 5, vous avez un bon taux de DHEA, et si vous de 6 à 10, vous avez une baisse de DHEA, et de 11 à 14, vous êtes mort. Non, vous manquez de DHEA, le dosage et un traitement vous seront très utiles. Lisez le chapitre sur la DHEA. Et tout c'est présenté comme ça, ce qui rend la lecture très facile et très pratique tout de suite. Hein. Alors, il y a aussi, madame, comment savoir si votre taux de testostérone est bas? Si votre libido est en baisse, votre taux de testostérone peut l'être aussi.
Et Alzheimer, vous avez fait des tests aussi ou...
Il existe des tests.
Hein, on avait reçu le docteur Baudin qui
voilà, il existe un test spécifique.
Plusieurs auditeurs sont allés le voir, ils ont été très très contents de cette entrevue parce que c'est quelqu'un de précieux et de très attentif, ce qui est essentiel pour un médecin, je crois. Enfin, je pense que non. Alors, êtes-vous sujet à un stress environnemental? On vous demande dans quel cadre vous vivez, si vous restez plus de 3 heures par jour en voiture, si vous habitez près d'une route à grande circulation, si vous faites de la radio. Et alors, la réponse, c'est si vous avez de 28 à 42, revoyez votre mode de vie d'urgence. C'est rapide et vous serez récompensé. Si vous avez 43, c'est même pas la peine de s'arrêter. Non, ça c'est bien fait. Cette présentation est excellente parce que c'est pas ennuyeux du tout. Non, c'est même une espèce de jeu. On peut s'amuser en société. Et puis, ensuite, ça renvoie à des solutions thérapeutiques. Et alors, il y a une partie qui me plaît pas du tout, c'est où vous faites des petites images. Montrer comment il faut faire de la gymnastique. Alors là, je suis absolument...
On ne peut pas faire seul.
Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé.
Selon le principe de Churchill, no sport.
No sport, oui. Ça a fonctionné.
J'ai réussi à vous faire faire des abdos pendant 3 jours, je crois, et puis vous avez porté plainte. Oui. 2 jours.
C'est pas le tout, c'est un gros pire, il faut se relever après. C'était terrifiant, la gymnastique.
Et vous avez... Ça, ce sont des travaux qui ont été faits par des instances professionnelles ou c'est des constats personnels?
Non, c'est pas seulement mes constats personnels. Une partie sont mes constats, mais une grande partie, c'est l'évolution de tout un tas de médecins dans le monde qui ont cherché, qui ont été des pionniers en Europe et aux États-Unis. Et on a une espèce de convergence de vues, il y a une espèce de consensus thérapeutique maintenant qui s'est installé depuis, disons, une dizaine d'années à peu près.
Je posais cette question parce que la quatrième partie du livre, c'est des cas cliniques et programmes anti-âge de médecins. Alors, c'est très personnalisé. La Sandra et la thyroïde, on a l'impression que c'est des
il y a des exemples, il y a des cas
Alexandre
cliniques.
Alexandre et le stress, voilà. Monique et la DHEA, Jean et la testostérone,
la mode.
Amandine et la ménopause.
C'est des gens qui étaient très caractéristiques ouais. d'une baisse d'une hormone
c'est ça.
Spécifiquement.
Et alors, vous expliquez comment ça se manifeste
donc
et comment
les symptômes typiques de la phase.
Comment ils ont résolu leur
problème. Et à la fin, vous avez également les traitements de différents médecins dans différents pays du monde qui prennent des traitements anti-âge.
Et il y a même des recettes.
Il y a des recettes de cuisine anti-âge, tout à fait.
Et moi, j'ai un souci, docteur. Je pense au dîner, là, maintenant, depuis une demi-heure, c'est évident. Et j'adore les lentilles.
Depuis une demi-heure, vous avez commencé à y penser en sortant de table.
Oui, à midi, voilà. Mais l'ennui, c'est que je me dis, les lentilles, pas de problème, je sais où leur manger d'exquise. Mais il va y avoir la saucisse de morceaux voilà, avec. Alors ça. Là, vous allez me gronder, c'est évident. Là, oui.
À petite dose de rondelles.
On donne deux traitements d'auditeurs pour l'arthrite.
Oui.
C'est les cataplasmes d'argile.
Ah, formidable, ça.
Pour l'arthrite et l'arthrose. Ouais. Et pour les épaules, le meilleur traitement est la mésothérapie et l'homéopathie.
Oh, la mésothérapie, ça.
Et une dernière affirmation, la mélatonine est détruite par les ondes électromagnétiques des antennes de la téléphonie portable.
La mélatonine, non. Il est très probable que les téléphones portables induisent des lésions cérébrales.
Vous en parlez, d'ailleurs.
Ouais, il y a plusieurs
parmi
études
les questions que vous posez,
qui commencent à le montrer actuellement.
Plus de deux heures, le téléphone portable.
Donc il vaut mieux avoir un cordon pour écouter son portable.
J'écoutais Radio Courtoisie, mais plus pour très longtemps.
Non, voilà. Pour encore 5 minutes. Il y a la recette du flan vapeur mi-cuit au caviar de sirène. On va bien savoir ce que c'est que le caviar de sirène. Ça doit être bon. Ça donne faim, en plus. Alors, un livre sur l'âge qui donne faim, c'est formidable. Voilà, on a blagué beaucoup, mais c'est quand même un livre qui est fait sérieusement, dont la lecture est sérieuse. Et encore une fois, qui est très, très pratique à lire, parce que... Il est jalonné de tests. Par exemple, le premier test, c'est quel est votre âge biologique. Je vais m'empresser de le faire. Et quand même, au départ, si vous êtes un homme, vous enlevez 5 points, et si vous êtes une femme, vous en ajoutez 6. Ça veut dire quoi? Il vaut mieux être un homme ou une femme?
Non, il vaut mieux être une femme. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes.
On a raison de les tuer à la naissance, comme on disait tout à l'heure.
Elles ont deux chromosomes X, et nous, on a un seul chromosome X.
Ah, les gars, ça.
Je suis anxieux quand j'écoute Serge de Beketch le mercredi soir et j'avale 2 ou 3 tablettes de chocolat. Ça ne doit pas être très bon, docteur.
Exact, c'est pas très bon.
Qu'est-ce
qui va manger le chocolat, vous?
Serge de Beketch.
Non.
C'est l'antidote, le chocolat.
Il y a des auditeurs qu'on stresse, alors heureusement qu'il y en a beaucoup qui viennent nous dire qu'on les amuse et qu'on les détend.
Du chocolat, vous n'en mangerez jamais autant que moi. Votre tempérament, par exemple, vous êtes souvent joyeux, plus 2 points. Vous sentez que vous contrôlez votre vie, plus 3 points. Vous avez souvent des projets, plus 2 points. Vous avez,
c'est tout ça.
Les gens optimistes vivent beaucoup plus vieux que les gens pessimistes.
Ah bah alors ça, on est sauvés.
Pour différentes raisons.
Enfin, en tout cas, ils ont l'impression qu'ils vivent plus longtemps. Non, c'est pas ça, c'est les pessimistes qui ont l'impression qu'ils vivent plus longtemps, parce qu'ils sont kikistes.
Voilà. Ils usent leur temps.
Voilà. Ça s'appelle le guide pratique de la médecine anti-âge par le docteur Claude Dalle. C'est paru aux éditions Thierry Soucard et ça vaut 20 euros. Et le docteur Claude Dalle est spécialiste de la médecine anti-âge, président de l'association française d'anti-aging, pourquoi pas, membre de l'A4M, A4M, American Anti-Aging Association, et de la WSAM, World Society of Anti-Aging Medicine.
Je continue la papaye fermentée, je peux?
Vous pouvez continuer, sans problème.
D'accord, merci docteur.
Déjà pour toi le Parkinson, ça marche.
Ah bah oui, très bien.
Voilà. Bah, je vais garder ce livre et je vais me plonger dans la lecture ce soir.
Il nous reste 3 minutes. Serge, est-ce qu'on peut vendre on a vendu une demi-douzaine de livres. Est-ce que d'un seul mot, on peut vendre les nôtres aussi pour une fois, ou est-ce que ça vous paraît indécent?
Rien du tout. On peut dire que l'excellent petit livre du Marquis
sur la bouffe
est en vente au prix de 10 euros à la librairie du Petit Pont, peut-être bientôt dans d'autres. Par correspondance, au prix de 12 euros à l'ordre de Jean-Paul Chériguez de Olmeta, 93 rue du Ruisseau, 75018, Paris.
Ça s'intitule L'homme à table.
L'homme à table, oui, excusez-moi. Alors, en ce qui vous concerne, Serge, j'ai encore examiné présent aujourd'hui votre article imminent, l'article imminent pour votre dernier livre, Le catalogue des nuisibles, n'est pas encore paru. Mais donc en attendant, on va indiquer l'adresse de vente par correspondance. Donc c'est 25 euros franco, n'est-ce pas Serge?
Pourquoi vous m'appelez Franco?
Ben, parce que je vous admire. Donc oui, port compris, 25 euros donc pour se procurer le catalogue des nuisibles de Serge de Bekech. À l'ordre de Serge de Bekech, quelle surprise, 4 place Francis, 75 010 Paris. Je me sers moi-même vite, avec assez de verve, mais vite. Donc, bat ta femme tous les jours, 10 euros franco, chez SDB, 4 place Francis, 75 010 Paris.
Est-ce qu'une dernière question, docteur Dalle, est-ce que de juste... sa femme, ça rajeunit?
Je sais pas. Juste m'excuser, il reste une trentaine de messages qu'on n'a pas pu passer, on avait changé de sujet, notamment 8 messages qui était pro-Maigret, et je voudrais pas croire qu'il y ait eu une quelconque censure.
Et voilà. Deux messages pro-Goffman.
Il aurait été censuré. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci, Marquis. Merci, Patrick Goffman. Merci, messieurs, car le docteur est venu accompagné d'un ami, avec un pharmacien.
C'est bien, on passe de l'un à l'autre.
Et je sais même plus si c'est à la semaine prochaine. Je ne sais
que Dieu nous garde pas, Serge.
Et que Dieu nous garde, bien entendu, plus que jamais.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct mercredi 23 mai 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 24 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par...